Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est très McFly et Carlito.
Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous. Vous écoutez bien un nouvel épisode du son d'après. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, car comme d'habitude, je suis accompagné de ma meilleure binôme.
Bonjour.
Louise.
Salut.
Tu vas bien?
Formidablement, bien sûr.
Et oui, on va très bien parce qu'aujourd'hui, on a un nouvel invité. Et cet invité, c'est Schkid.
Bonjour, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis avec vous dans le son d'après. Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Ça va, ça va.
Tu fais très bien l'énergie, bravo.
Ouais, ouais, grave. On l'avait briefé avant et du coup, il se met au niveau. Ça fait plaisir. On est vraiment ravis de t'accueillir dans le son d'après.
Après avoir été cité à peu près 48 fois
ouais,
dans ce podcast.
C'est vrai, je plaide coupable. Donc effectivement, en tout cas moi, je suis très content en fait qu'on puisse papoter de musique en fait. Tout simplement, je quitte pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement s'il te plaît?
Alors, je travaille dans la musique. De base, je suis musicien. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour. J'essaie de tout faire. Voilà.
C'est bien. Ah, c'est une super présentation. C'est bien ça. C'est mieux que multicasquette.
C'est mieux que multicasquette. Après, je comprends. Non, mais il y a tellement de trucs passionnants qu'on peut faire, que ce soit enregistrer une émission, enregistrer quelqu'un en studio, être DJ, écrire des textes. Trop de trucs à faire. Donc, la vie est courte. J'essaie de faire le maximum.
De musique à 360. Et bah, moi j'aime bien cette présentation là. Avant qu'on commence quand même, pour les gens du coup qui découvriraient le son d'après avec toi, Louise, est-ce que tu peux faire une rapide présentation de qui
bien
on est?
Bien sûr, avec plaisir. Donc le podcast Le Son d'après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort tous les lundis et où d'habitude avec Clément on partage nos kiffs musicaux du moment en espérant vous aider à alimenter vos playlists. À chaque fois on présente 4 morceaux. Ça va être le cas aujourd'hui, sauf qu'on a demandé à Schkid de ramener 2 morceaux d'artistes qu'il kiffe en ce moment et dont il a envie de nous parler. Et l'idée c'est qu'on ait tous les 3 une conversation autour de qui il est en tant qu'auditeur et qu'est-ce qu'il aime dans la musique. Et puis Clément et moi, on a chacun ramené un morceau à lui faire soit découvrir, soit au moins parler, l'occasion de parler avec lui en tout cas de musique autour de ça. Voilà.
Quel honneur, merci. Je suis trop content d'être là.
Mais nous, on est ravis de t'accueillir et j'avoue, je dois dire déjà d'emblée, j'ai adoré préparer cette émission et écouter genre tous les trucs que t'as fait et lire tes articles et tout, c'est trop bien. Donc je suis ravie que Clément ait parlé 48 fois de toi et que c'est vraiment au moment où on te reçoit que je commence enfin à faire des...
Tu comprends.
Oui, voilà, c'est ça, je comprends, exactement.
Bon, voilà, on t'a passé la pommade dans tous les sens. Je vous propose... Je propose qu'on commence.
On a le droit de dire aux gens qu'on aime bien leur travail.
Ah, mais tout à fait. Ah bah, tout à fait. Je suis le premier, tu vois, je suis le premier ravi. Et du coup, j'ai très hâte. Donc, c'est toi qui commence, Kid. C'est quoi le premier artiste dont tu vas nous parler?
Alors, je vous ai ramené un titre qui s'appelle Ebovida de Susana Lubrano, qui est une chanteuse capverdienne assez majeure, sorte de... C'est le très très haut niveau populaire chanteuse capverdienne. Je sais pas avec quoi on comparerait ça ici. J'allais dire Mylène Farmer, mais c'est pas non plus ça en termes de gigantesque, parce que le Cap-Vert, c'est des petites îles.
C'est une petite île, ouais.
La personne qui partage ma vie a des origines capverdiennes.
Okay.
Et il s'avère l'année dernière que cette personne a publié un roman qui s'appelle Les Douces. Un super roman, je l'adore évidemment. Son roman est très basé sur des personnages et je sais pas, je trouvais ça amusant d'imaginer qu'est-ce que ce serait la bande originale du roman. Donc, il y a 5-6 personnages principaux. Il y a un trait d'union qui mène vers le Cap-Vert et du coup, j'adore chercher de la musique. Ça me passionne. J'aime bien avoir une excuse pour le faire. Donc là, je me suis mis une phase là, il y a 2-3 semaines en me disant bon bah je connais rien du tout de la musique capverdienne, qu'est-ce que je peux trouver. J'ai creusé et je suis tombé du coup sur ce morceau Ebovida qui est pas un classique de cet artiste, qui est un morceau issu de son premier projet, donc un morceau de 96. Mm-hmm. Qui est une sorte de mélange dance kizomba. C'est pas incroyable, c'est pas très bien.
Okay.
C'est un peu de mauvais goût mais pas assez. Moi j'aime bien quand c'est sur cette frontière là.
Ouais.
Genre ça pourrait être très très nul. En même temps, c'est très émouvant. Voilà.
Très bien. Bah, on écoute alors.
Et Bovida de Susanna Lubrano. Et ben, c'est une très bonne manière de se dire bonjour, je trouve.
Ouais, grave.
Pour lancer cette émission. Ah, il se passe plein de choses. C'est...
Tout n'est pas de très bon goût.
Tout n'est pas de très bon goût, mais
non,
c'est très marqué dans les années 90.
C'est extrêmement marqué dans les années 90.
C'est vrai que
ça me touche un peu parce que ça se voit qu'ils ont essayé de faire vraiment une super chanson des années 90.
Ouais,
ouais c'est presque ce que ça. Tu veux dire.
Bah, en tout cas, il y a le petit moment rap de dance, quoi. C'est,
ouais.
C'est parfait.
Ouais, c'est ça, vraiment les notes
dance. Il y a
dance.
Tous les codes, ils ont tout respecté, ouais, ouais. Mais c'est pas exactement ça.
Non.
J'aime bien les morceaux comme ça qui ont tous les éléments qui faisaient qu'il y avait des choses iconiques, voilà, une période donnée, la dance, il y a des codes, on peut tous les reconnaître, quoi.
Ouais.
Et c'est très bien fait dans, je sais pas, Freed From Desire ou des morceaux comme ça. J'aime trop les morceaux, ils ont tout fait pour y être, ils sont très proches, mais ils y sont pas.
Oui, puis en plus, ils ont essayé d'amener aussi autre chose.
Et en plus, voilà, il y a quelque chose d'extrêmement local,
ouais, c'est
des
ça.
Couleurs... dans les petits accordéons, ouais, dans le rythme, un peu...
On dirait, tu sais, j'ai noté, on dirait que c'est que des instruments virtuels gratuits qu'ils ont chopés sur Internet.
Ouais. Enfin,
moi, ça me donne... En tout cas, ça me donne cette impression-là, en tant que meuf qui a fait de la production pendant très peu de temps et qui n'avait pas d'argent à dépenser dans des VST.
Ouais.
J'ai vraiment été télécharger des trucs. Il y a certains sons où je suis là, ça, c'est, on dirait vraiment un vieux VST. Tu sais, genre les cordes, parfois, qui arrivent sur les refrains. Je sais pas si c'est
absolument.
Les refrains.
Absolument. Mais... Absolument.
C'est incroyable, tu sens qu'ils ont plaqué un accord et qu'ils ont mis... Enfin, c'est trop marrant, j'aime trop.
Ouais.
Et donc, comment est-ce que tu trouves ça? Tu t'es dit, ok, je vais faire toutes les playlists Cap Vert et je vais fouiller Discogs ou...
Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Bah, quand je suis sur des recherches très spécifiques comme ça, soit je vais chercher des noms, des, je sais pas, des couleurs, des choses que je peux vouloir chercher dans un titre de chanson. Là, sur le Cap Vert, c'était facile, j'ai ciblé par playlist, par ville, par région, pas mal de playlists Spotify, des playlists d'utilisateurs de locaux, tu vois, qui écoutent de la vraie musique capverdienne, qui a du sens, qui a un vrai historique là-bas, que moi je peux pas connaître parce que je suis pas là-bas.
Bien sûr. Ouais.
Je passe des heures. Généralement, je marche beaucoup en fait. Quand je marche, je me laisse les playlists en boucle et je me note ce qui peut avoir du sens dans les diverses utilisations que je peux en faire. Là, vraiment, c'est pas pur titre personnel, mais les morceaux que je cherche peuvent toujours être utiles dans un DJ set, si j'ai envie de sampler quelque chose. Les recherches, je tâche de faire en sorte qu'elles soient très exhaustives, parce que je sais jamais quand est-ce que je vais trouver soit quelque chose qui va m'être utile, soit juste quelque chose qui va vraiment me marquer, me toucher.
Ok. Et du coup, t'es organisé comment, justement, quand t'écoutes des morceaux comme ça, à chaque fois que tu les écoutes, tu te les notes, tu te les mets dans des playlists, tu...
Ouais, toujours.
Okay.
Direct dans une playlist, au bout de 3 secondes, pour pouvoir réécouter quand j'ai la place émotionnelle, en fait. Mais ouais, j'essaie de tout consigner, tout le temps, les choses que j'écoute. D'abord, pour vraiment juste un rapport très, je sais pas, sentimental que j'ai à la musique et aux dates. J'aime bien me dire que... Si j'ai envie de me rappeler comment je me sentais, bah là, par exemple, avec vous, en avril 2022, j'aime bien me dire que bon, voilà, je consigne toutes les chansons que j'ai écoutées qui m'ont plu de ce mois-là, et dans 5 ans, quand j'aurai envie de me rappeler de, je sais pas, tel souvenir spécifique, de telle atmosphère, je sais que c'est caché dans cette chanson-là, qui est dans cette playlist-là.
Donc c'est par date, c'est souvent par mois, mais d'ailleurs, mais pendant un temps, tu partageais... ou même c'est toujours le cas, je crois d'ailleurs, tu partages tes coups de cœur un peu du mois.
Ouais, alors je suis pas toujours très exhaustif, c'est pas exhaustif le terme que je cherchais, assidu.
Assidu, ouais.
Car je suis vraiment extrêmement nul sur les réseaux sociaux. Du coup, je peux pas me dire, bon, il faut tous les mois que je poste. Après, tous les mois, je le fais. Ouais. Juste tous les mois, j'ai pas forcément le temps de partager.
J'ai découvert ton compte Spotify l'autre jour, ouais. J'ai fait hop, abonné.
C'est gentil. Mais ouais, c'est des bons marque-pages pour moi de me.
Ouais, je comprends.
J'ai exactement la même. Moi, j'ai, je pense, des playlists depuis 2015 tous les mois,
ouais,
par contre.
Et
pour le coup, il y a vraiment un truc d'assiduité. Wow. Tous les mois, j'ai tous les morceaux que j'ai écoutés, kiffés. Ouais.
Toi, en plus, tu joues. Bien. C'est ouais. Important de je sais pas, juste d'imprimer quelque part les morceaux que soit que t'as kiffé, soit que tu vas pouvoir jouer dans un set, soit que tu vas pouvoir présenter à des gens.
Ouais, mais je pense que comme toi, j'ai plein de playlists avec plein de buts différents, par genre, par genre, tu vois, là, je me suis créé un nouveau dossier dans Spotify, DJing, et j'ai mis genre, ça c'est oui, ça c'est pas sûr, ça c'est à réécouter, et donc il y a, tu sais, les trucs s'accumulent, j'ai jamais le temps de tout réécouter, mais. Et justement, j'allais te demander, est-ce que t'as le temps, justement, t'as la capacité émotionnelle de réécouter tous les trucs que tu consignes?
Je crois que j'écoute pas tant de musique que ça, okay. En réalité. Je pense que j'ai une écoute très ciblée. Je sais pas, le vendredi, j'écoute souvent les trucs vraiment comme si j'étais un journaliste, tu vois. Donc j'écoute respectueusement tout ce qui sort, les grosses têtes. Et après, tout le reste, j'ai généralement des cibles très spécifiques. Je sais pas, là en ce moment, j'ai envie de rattraper toute la musique soul. Années 70 américaines, qui je pense le style de musique que je préfère en réalité. Mmh. Et quand j'étais plus jeune, j'avais grave envie de tout découvrir, mais j'avais pas forcément ou le temps ou les ressources. Mmh. Et je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps que si j'ai envie d'écouter toute la discographie des OJs, en fait, je peux le faire maintenant. Oui. Du coup, j'écoute que ça en fait pendant en boucle, quoi. J'écoute toute la discographie. Je me laisse le temps émotionnel d'écouter juste ça, de m'intéresser à ça quand j'ai envie, aller lire des articles. Et une fois que j'ai été au bout de ce ressenti-là, bah je vais passer à autre chose. Je sais pas, peut-être j'écouterai Tool ou Dire Straits après pour découvrir. Okay. J'essaie de pas être un boulimique de musique et de culture en général. C'est quand même facile de le faire à notre époque.
Je me sens clair. Extrêmement visé.
Non, mais c'est très facile.
Je non, mais moi je pense que je suis plus capable. Peut-être que je l'ai été avant, mais je pense que j'ai vraiment besoin de ressentir à la place de la musique dans ma vie et de pas avoir trop d'informations et être perdu. En plus, je suis super énervé à chaque fois que je connais pas tout de quelque chose. On peut pas avoir une conversation là sur le dernier, je sais pas, Dua Lipa et Megan Thee Stallion parce que je l'ai pas écouté. On peut vraiment pas en parler, ça va m'énerver, tu vois. J'ai pas eu le temps de lire et de comprendre. Donc quand j'écoute quelque chose, faut vraiment que j'aille au bout de tout ce que je suis capable de pouvoir répondre si jamais on me pose la question. Pour rien du tout, hein, c'est une compétition avec moi et moi-même dans ma tête.
C'est ta propre curiosité, quoi.
Et absolument, parce que personne ne me parle des OJs dans la vraie vie, quoi. Vraiment, tout le monde s'en fout, tu vois.
Mais toi, est-ce que t'en parles à d'autres gens derrière?
Pas tant que ça. Ouais, je dois avoir un petit cercle peut-être très rapproché, mais... Je crois que je parle pas de musique plus que ça au quotidien.
C'est intéressant parce que tu vois, on en parlait en antenne, mais moi je sais que c'est l'une des choses qui m'a motivé à faire le podcast, c'est parce que justement j'avais l'impression que je n'avais pas ces conversations-là en fait dans la vraie vie, moi avec les gens qui m'entourent. J'adorais parler de la nouvelle sortie de tel ou tel artiste, mais en fait, parce que on n'a pas forcément les mêmes affinités musicales ou quoi, mais j'avais pas ça dans la vraie vie. Donc le podcast a été parfait et l'inspiration, nos fun pour lesquels voilà, vous avez...
Est-ce que tu veux contextualiser NoFun pour vos auditeurs qui ne connaissent
pas? Du coup, NoFun était, je peux le mettre maintenant au passé, je sais pas si...
Ça fait très longtemps qu'ils ont ça fait,
il va pas être ressuscité maintenant.
A priori.
Mais du coup, était un podcast de discussion musicale, bon, qui était notamment... vous parliez quand même beaucoup de rap, mais pas que. Voilà, vous étiez, je crois, 3 ou 4 autour de la table en général, sortir des sorties des albums, en fait, qui sortaient, je sais pas, j'ai plus les dates exactes de NoFun, mais c'était quoi, entre... 2015, 2019, un truc comme ça.
Je crois qu'ils ont, ouais, c'est ça, ils ont dû le lancer en 2015. C'était Nico Pratt qui présentait. Après, Mehdi Maizi a repris le flambeau jusqu'à, ouais, je sais plus si c'est fin 2018 ou début 2019. Moi, j'ai arrêté courant 2018, et après les avoir rejoints, je crois, en 2017, 2016.
Et moi, je sais que j'ai été un auditeur assidu de ce podcast. Et du coup, vous entendre parler de musique comme ça toutes les semaines me sauçait, quoi. C'est vrai, mais... Je sais bien, moi aussi j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de discuter de musique
après,
avec des copains.
Je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que ce truc par exemple de se réunir et de parler de musique, peut-être tu vas me dire une information autre, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout les fans de rap qui font ça, qui parlent de musique de manière vraiment hyper compulsive, complète et envahissante. là où j'ai moins l'impression que je vais avoir une super longue conversation sur d'autres styles de musique.
Est-ce que, je sais plus si c'était vous qui en parliez déjà à l'époque dans No Fun ou plus globalement moi dans les interviews que j'ai pu voir, mais que c'est on rattachait ça à la culture française, c'est-à-dire que autant par exemple en Angleterre a priori ils ont une telle culture musicale et du coup il y a beaucoup de discussions autour de ces sujets-là, alors qu'en France pas trop. Et c'est vrai que, et même à la télé ou dans les médias, quoi, à part certains, si, allez, on va dire, il y a Taratata, quoi, tu vois, mais c'est.
Oui, dans finalement, les médias, c'est sûr.
Il y a assez peu, je trouve, de.
Moi, je pense que la culture. Je pense que la culture internet a fait que tous les zinzins d'un genre de musique, c'est sûr qu'ils se retrouvent quelque part, tu vois. Genre, on le sait pas parce que.
Je pense aussi.
On n'écoute pas du métal, mais je pense que vraiment, les fans de métal, ils sont ensemble et ils sont en train de se parler du dernier riff ou de la dernière. Enfin, tu vois, genre.
Je pense aussi, ouais.
C'est sûr. C'est
surtout aujourd'hui.
Niché, quoi. Ouais, je pense que c'est niché, quoi. Et c'est pareil, je pense, quand on recevait Nala, en termes de jazz, de tout ce qui est live et tout, enfin, je pense qu'il y a une vraie vie autour de la musique live en jazz à Paris. Mais dont moi j'ai aucune idée que ça existe, ouais. Quoi, tu vois. Donc en fait je pense que c'est pas si niche que ça, enfin c'est niche dans le genre, mais c'est pas si je vais pas trouver le mot,
je vois ce que tu veux dire. Et disons que ma sensation est que les conversations rap sont plus faciles à tenir parce que le rap c'est un peu comme le foot, tout le monde peut à peu près avoir une opinion sans profondément suivre, là où je n'oserais pas comparer je sais pas, le volleyball et le jazz, mais bon, il faut avoir passé plus de temps à observer ce que c'est ce sport ou écouter cette musique pour avoir une opinion, quoi.
Oui, je suis d'accord. C'est probable.
Et du coup, par curiosité, est-ce que tu te souviens, toi, de tes premiers souvenirs musicaux ? C'est-à-dire peut-être les premières choses que tu as aimées ou déjà même qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petit ? C'est-à-dire, est-ce que tes parents te faisaient écouter de la musique ?
Vraiment, c'est de la triche parce que j'ai une famille très... culturel, mon père produisait et éditait de la musique dans les années 70, il a vécu une existence de musique, donc j'écoutais pas tant de trucs avec lui, mais c'était présent, quoi. Après j'écoutais beaucoup de musique avec ma mère qui était très très fan, au sens fan presque terrifiant du terme, de chansons françaises des années 70.
Okay.
Et j'adore ma mère, vraiment, je l'aime trop. Chez elle a un canapé sur lequel il y a trois petits oreillers Claude François.
D'accord.
Qu'on est on est dans cette ambiance-là.
J'allais te demander du coup, c'était quoi les artistes qui reviennent le plus parce
Claude François, Françoise Hardy, Brel, c'était pas mal ça. Donc il y avait souvent de la musique chez moi. J'ai eu la chance de grandir avec des frères et sœurs, que chacun écoutait dans sa chambre des styles différents. Mon grand frère écoutait du métal, mon autre frère était plus rap français. Une de mes sœurs avait des maxi posters de Michael Jackson. Et mon autre sœur était plus radio, je sais pas, elle écoutait La Rousseau, quoi.
Ouais.
J'avais un melting pot de tout ça, un premier souvenir.
Est-ce que tu récupérais les disques de tes frères et sœurs quand tu n'en voulais plus ?
Ouais, bien sûr. Mon frère, celui qui écoutait du métal, qui écoute toujours, il avait. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, car ça n'existe plus désormais. Les gens qui sont vieux et qui m'écoutent vont reconnaître. Avant, on avait des petits endroits où on pouvait ranger tous nos CD. Donc, on mettait que les CD dans des petites pochettes en plastique.
Et
on avait une sorte de sac.
Oui, grave.
Mais moi, je sais que j'avais ça dans les voitures, tu sais, parce qu'au bout d'un temps en voyage,
tu
prenais que ça.
Voilà.
Pour pas te faire chier avec les boîtes.
Et j'ai le souvenir que mon frère en avait un qui était vraiment très très bien organisé. Ouais. Du coup, il y avait les CD et il y avait un espace plastique où tu pouvais mettre les pochettes avec tous les détails, tout ça. Et j'ai passé une quantité de temps pendant que lui, il était, je sais pas, à l'école ou en train de faire sa vie. J'allais, je sais pas, dans sa chambre ou là où il rangeait ça et j'écoutais à balle tous les trucs. Pas forcément des trucs que j'adorais, hein, je sais pas, il écoutait Pantera, Meshuga, Lofofora, Willhaven, Dillinger Escape Plan, donc tous les trucs de métal les plus sauvages possibles. Moi, j'adorais évidemment parce que les pochettes étaient. Enfin, les pochettes de métal de cette
graphiquement,
époque.
Graphiquement, c'était.
C'est impressionnant.
Ouais.
Je regardais surtout les pochettes. Je faisais semblant d'aimer quand j'écoutais Slayer, quoi. Parce que je comprenais pas trop. Mais ouais, ça, mon autre frère à l'époque, il avait des cassettes. Donc j'avais écouté, je sais pas, les premiers I Am sur cassette audio. Alors là, j'ai conscience que je parle comme si je venais de la préhistoire.
Non, mais on est à une génération où je pense, en fait. On devient très vite vieux, en fait, parce que je pense
ça change très vite, oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça, moi j'ai été dans les mêmes périodes, donc j'ai connu tout ça aussi. Et maintenant, c'est vrai que ça paraît vite dinosaure, ouais.
Ouais.
Et tu te rappelles, du coup, toi, à quel moment tu commences à aimer ta propre musique, du coup, quand tu t'écoutes pas la musique de tes grands frères ou sœurs, parents
Tout à fait. Alors, j'en ai effectivement parlé dans un podcast concurrent chez NIFA,
que la NIF. Collègues, j'ai envie
voilà,
de dire.
Les collègues. J'écoutais La Nocturne, qui était une des émissions de Skyrock, qui passait à partir de minuit. Il passait des morceaux qui passaient pas aux heures de grandes écoutes. Mm-hmm. J'étais tombé sur un morceau d'un duo qui s'appelait La Caution. Donc, c'était rap un peu alternatif. Les pauvres, ils ont été coincés dans cette image. C'est pas le bon terme que j'aurais dû employer, mais. Ce sera plus simple à comprendre comme ça. C'était du rap un peu plus original que ce qu'il y avait à l'époque. Ils avaient fait un morceau qui s'appelle Les Rues Électriques, qui avait quelque chose de très funk dans les choix des sonorités, très minimaliste, et qui était beaucoup en contraste avec ce qui se faisait à l'époque, qui étaient des trucs que j'adorais aussi, hein, que ce soit, je sais pas moi, à l'époque, je pense, j'aimais bien This Is La Peste et Zebda, quoi, fin des années 90. Ouais. Et il y avait quelque chose qui me donnait la sensation que ça allait plus loin, et effectivement, il y avait l'excitation, je pense que c'est quand c'est par toi-même que tu vas découvrir des chansons, que t'as l'impression que c'est toi qui l'as trouvé.
Ouais, ouais, c'était vraiment le Christophe Colomb de cette musique.
Exactement, exactement. Et en plus, je pense que c'est vraiment très... Je pense que je suis très privilégié à ce niveau-là, parce que c'est très le cœur de ma famille. Les gens de ma famille font ça, et mon père, ayant été éditeur et producteur de musique, il a dédié sa vie à découvrir et à développer des talents. Donc, je pense que quand moi je découvre un truc, je ne fais rien d'autre que d'être dans la continuité,
perpétuer la tradition familiale.
Tout à fait.
Et tu te souviens ce qui te touche particulièrement pour cet artiste-là? C'est justement le fait que ça ne ressemble à rien d'autre.
Il y a ça. Et puis à l'époque, quand j'ai découvert La Caution, je pense que je devais avoir 9-10 ans, étant un petit métis de banlieue, je pense, je cherchais n'importe quelle figure dans laquelle j'allais pouvoir trouver un miroir. Mmh. À cette époque-là, dans ma tête, tout se confondait un peu entre les Arabes, les Latinos et les Noirs, quoi. Donc je savais pas trop à quel camp j'appartenais. Les mecs de La Caution, je sais pas, c'était deux Arabes de Noisy-le-Sec, et ils avaient l'air un tout petit peu chelous et intéressés par des choses... culturelle et créative, et moi je sais pas, j'étais pas un petit très original ou très particulier, j'aimais bien lire, dessiner, écouter de la musique, regarder des films. J'avais l'impression qu'on était issus des mêmes endroits. En fait non, mais je sais pas, j'avais une sensation un peu grand frère avec ces deux artistes là.
Ouais, je comprends totalement.
Voilà. Ok, et ben je te propose, du coup on passe tout de suite au son d'après. C'est à mon tour. Alors, comme je disais en intro, donc je t'ai beaucoup cité dans ce podcast, donc, et je suis ton travail depuis un moment maintenant, Shkid.
Ça me fait très plaisir.
La période, ouais, au KLM, No Fun, et puis aujourd'hui sur les différents formats que je peux trouver sur YouTube. C'est la première fois que, du coup, qu'on se rencontre aujourd'hui, mais je t'ai toujours vu comme quelqu'un qui aimait parler de musique, qui le faisait avec méticulosité. Donc c'est pour ça que je suis ravi de t'accueillir là, et à force de t'écouter, ouais, je voyais en toi quelqu'un d'exigeant, peut-être même il se dégageait un petit côté esthète chez toi, dans la manière dont tu me parles de la musique. Et du coup, je me suis dit que, pour t'accueillir ici, je devais ramener quelqu'un de subtil, d'intéressant, mais pas chiant non plus. J'espère que...
C'est pas un challenge,
Ouais, ouais, c'est un vrai challenge.
Moi, j'adore que tu te sois pris la tête, alors que moi, je suis venu avec un morceau de Dance Kizomba.
Exactement. Ah, mais ça va être intéressant, parce qu'en plus, oui, il faudra qu'on développe ça quand même, mais on aura le temps d'en reparler plus tard. Bon, bref, en tout cas, moi, mon choix, il s'est porté sur un claviériste, producteur et compositeur californien du nom de John Carroll Kirby. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Le nom me dit quelque chose.
Je vais te faire une petite présentation, ça va peut-être que ça va raviver quelque chose. John Carroll Kirby, du coup, difficile de lui donner un âge, mais quand on voit sa chevelure et son look, on dirait qu'il sort tout droit des années 70. Il grandit en Californie, commence à jouer du piano assez jeune, et du coup, naturellement, il est orienté vers des études de jazz et de composition. Il devient du coup claviériste et commence à jouer du synthé dans différents groupes. Et c'est à partir de 2007 où il commence à enchaîner les collaborations prestigieuses. Il collabore notamment avec Will.i.am, avec Sébastien Tellier, Blood Orange, jusqu'à Solange, où il se retrouve à coproduire plusieurs morceaux sur l'excellent album A Seat at the Table. Sur cet album, vous pouvez notamment du coup le retrouver au synthé sur le morceau Cranes in the Sky, qui vaudra son premier Grammy à Solange. Les collaborations s'enchaînent, Kali Uchis, Harry Styles, The Avalanche, Mark Ronson,
ah ouais,
Frank Ocean, Kali Uchis, Conan Mocassin. Alors je suis vraiment désolé pour les auditeurs du son d'après, j'ai l'impression de répéter toujours les 5 ou 6 mêmes personnes. C'est terrifiant. Et vraiment, c'est tout à fait le fruit du hasard.
Tu fais exprès,
Non, mais
Clément.
Je tombe vraiment sur ce mec-là par hasard. Je crois que j'en entends parler sur Radio Nova l'autre jour, tu vois. Ouais. J'entends le morceau, je fais, c'est trop bien. Et derrière, bah voilà, en préparant l'émission, je vois ça. Je fais, mais bon, bah, c'est pas... Je sais pas, c'est mes oreilles, quoi, tu vois, qui me ramènent vers ça. Du coup, en parallèle de toutes ces collaborations, lui, il commence à sortir des projets solo depuis 2017. Il décrit lui-même sa musique comme un mélange de jazz avec du new age, de la funk et de l'exotica.
Waouh!
C'est quoi de l'exotica?
Bah, de l'exotica, c'est quand tu. C'est de ramener. De ce que j'ai lu, c'est.
J'ai peur.
En fait, c'est une sorte de mélange un petit peu, je crois, de musique électronique, mais qui va tendre, tu sais, vers des influences. Ça peut être les musiques caribéennes, ça peut être la musique des Andes.
Ok.
Voilà, je pense que c'est des influences diverses.
Coloniales, quoi, donc.
C'était pas présenté comme ça, mais c'est vrai que maintenant tu le dis, c'est pas impossible.
Très bien. Bon bah fais-nous écouter ton morceau de musique coloniale. Ça m'intéresse.
Bah de toute manière, oui, en vrai, j'avais fini ma présentation, donc... Mais vous... Ouais, en vrai, vous allez... C'est bon, je quitte à tuer Louis.
Et
ben, ce que on va écouter la musique, je finirai peut-être les deux, trois trucs que j'ai à dire après. Écoutons la musique. Donc je vous propose d'écouter le son... qu'il a composé pour un film d'animation du nom de CryptoZoo. Le morceau s'appelle Phoebe's Team. Le film est écrit et réalisé par Dash Shaw. Ben voilà, on écoute et puis on revient rigoler tous ensemble. C'était John Carroll Kirby avec Phoebe's Team.
C'est très élégant.
Ouais, c'est ce que je trouve aussi, pour être tout à fait honnête.
Ce que j'ai préféré, c'est la partie exotica. Non, je rigole. Non, c'est très beau. Effectivement, je vois le côté... Enfin, je vais réécouter avec plus d'attention Solange et compagnie, parce que j'imagine que j'y retrouverai cette couleur-là.
Bah, en fait, de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, moi, pour avoir un peu écouté ses albums et tout, c'est que les artistes viennent beaucoup le chercher pour le synthé, qu'on sent un peu là, tu vois, on sent dans le morceau qu'on a entendu, et plus globalement sur tous les projets qu'il a sortis. Ouais, il a sa petite touche, mais que je trouve élégante, parce que elle n'est pas non plus ultra appuyée. Je trouve qu'elle est bien, elle vient bien englober, en fait, tu vois, la musique. Et moi, c'est ce que... Voilà, il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup dans ce morceau. Déjà, de la manière dont il se déploie petit à petit. Cette sobriété au début, puis cet ensemble qui devient plus complexe. Bah, j'aime bien, moi, effectivement. Moi, ils me font du bien, les petits apports exotica, là, mais là, avec l'apport flûte de pan, là... Dans la deuxième partie, ouais, je sais pas, il y a quelque chose de très naturel, un peu musique hippie, tu vois. On est en harmonie avec la faune et la flore, presque spirituel en fait dans cette musique-là. Et du coup, à la fois, je trouve ça très fluide et simple et sophistiqué. C'est ça que je trouve, que je peux trouver parfois très beau dans la musique. Moi, ça m'a fait le coup il y a pas longtemps avec un artiste, un producteur qui s'appelle Vegin. Je sais pas si ça dit quelque chose.
Ça me dit quelque chose, j'ai vu passer ce blaze.
Ouais, bah moi j'ai découvert, il a bossé avec Frank Ocean et...
Ah, deuxième mention de Frank Ocean aujourd'hui.
C'est beaucoup trop fréquent
ici. Je comprends
plus, hein. Mais ouais, moi du coup, il y a quelque chose qui me fascine dans cette recherche, je trouve, de la musique juste. Mmh. Ça passe par plein de choses. Là, il y a la mélodie, il y a l'orchestration, mais je trouve ça pas facile, en fait, à la fois faire simple et sophistiqué.
C'est vrai.
Et du coup, c'était une question sur laquelle j'avais envie de t'interroger. Toi, de ta propre expérience déjà, parce que tu crées de la musique, mmh. puis aussi tout simplement de ton expérience, parce que tu as pu constater autour de toi. Comment on est connecté à cette justesse, à cette vérité quand on crée de la musique ?
Waouh !
Putain, question de France Inter, mon gars, c'est incre. J'adore, bravo.
C'est une question à laquelle il n'y a même pas de réponse simple en plus. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de profond ? Je pense que quand tu es dans un flux, dans la création, le plus important, c'est le flux. Quand tu es dans un flux, tu réfléchis plus et c'est instinctivement ce qui existe. Le fruit de tout ce que tu as écouté et de tout ce que tu es capable de fournir créativement. Enfin, je pense que les belles œuvres comme ça, le maximum des esthètes, puis des gens qui ont arrêté de réfléchir et qui délivre juste, je suis sûr qu'il a fait son morceau les yeux fermés.
Ouais, c'est ça. Parce que moi, en écoutant ce type de morceau, je m'interroge entre savoir est-ce que c'est 100% de la spontanéité ou est-ce qu'il y a une vraie part aussi d'hyper méticulosité sur, tu vois, chaque petit détail.
Il y a sans doute toujours un peu des deux, mais je pense que, je crois, les créateurs et les créatrices qui font passent des années à construire des outils qui leur permettent d'être très méticuleux sans y réfléchir.
Est-ce que t'as vu le documentaire sur Quincy Jones qui est sorti il y a pas longtemps ou pas encore ?
Non.
Justement,
j'ai regardé un peu, mais ça m'a énervé parce que c'est sa fille qui réalise, c'est ça ?
C'est sa fille, ouais.
C'est trop pour moi. Mais tu me conseilles quand même de le regarder ?
J'ai kiffé, en fait, parce que je connaissais très mal le travail de Quincy Jones.
Moi, c'est pareil.
Et en fait, j'ai kiffé toute l'explication de sa carrière, les trucs des dernières années, pas nécessairement, mais genre vraiment tout le passage sur la construction de sa carrière et comment il était très jeune, comment après il a été formé à l'orchestration, etc. Ouais,
avec Sinatra.
Et ouais, il y a des moments où tu le vois écrire sur ses partitions et t'es vraiment en mode, mais comment c'est possible que t'aies ce langage pour dans ta tête te dire ah ça fait ça et donc du coup en note ça fait ça sur la partition et voici la partition pour le violon et voici la batterie et voici machin et je trouve ça vraiment incroyable et du coup je trouve ça rejoint ce truc de c'est dans ta tête quoi, comment c'est possible, moi je trouve ça fascinant de ouf.
Ça doit être c'est la maîtrise d'un langage en fait, c'est vrai que à partir du moment où tu t'es formé, tu as pratiqué, tu commences à savoir que, par exemple, au cinéma, tel mouvement de caméra va instinctivement provoquer chez le spectateur telle émotion ou tel sentiment de suspense ou quoi. Et du coup, j'imagine que la musique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu maîtrises ton art, t'as plus besoin de te poser la question. Et je pense que c'est aussi là que tu dois encore plus te permettre d'aller vers l'instinct.
Mais est-ce que tu penses que c'est que de la maîtrise ? Parce qu'il y a plein d'artistes hyper jeunes qui arrivent et qui ont commencé à faire des chansons il y a 3 ans et qui font des chansons merveilleuses. Du coup...
Après, je pense que nos standards de merveilleux ont beaucoup évolué avec les années. Donc...
Oui, puis moi, j'ai tendance à dire merveilleux pour plein de trucs aussi. Donc...
Ouais, mais c'est normal. On a aussi plus de choses qu'on peut aimer, pas seulement pour des choses qui correspondent à l'instinct, mais qui correspondent à la réalité d'un instant T. Enfin, je pense que c'est beaucoup ça. Enfin, je suis pas un utilisateur de TikTok, par exemple. Je pense que ce qu'on aime sur TikTok, c'est que ça va vite et ça correspond à ce qu'on veut à ce moment-là. Donc, c'est merveilleux. Ça n'a pas le même sens merveilleux que, effectivement, quand tu écoutes l'arrangement de tel album de Sinatra par Quincy Jones. C'est une autre manière de s'exprimer, c'est une autre manière de maîtriser quelque chose et de trouver un écho dans un public. En tout cas, moi, dans ma pratique de ce que j'aime faire quand je crée de la musique, j'aime bien qu'on puisse avoir un peu des deux. J'ai beaucoup de respect pour le travail artistique et beaucoup de respect pour le travail un peu plus artisanal. J'aime bien me dire que, par exemple, quand je crée quelque chose, je sais ce qui me plaît, je sais en quoi j'atteins ce qui me ressemble le plus. En 3 minutes, je peux faire quelque chose que moi je vais trouver génial. Peu importe si quelqu'un trouve génial, on m'en fout, tu vois. Moi, je sais ce que je suis capable de faire. Et après, j'aime bien l'idée qu'avec les outils que j'ai développés, je suis capable de créer quelque chose presque d'utilitaire, qui a une fonction de on a besoin de telle chose qui correspond à tel format. Là, je pense à ça parce que j'ai dû refaire le générique de Rap Jeu la semaine dernière, parce qu'ils ont lancé la nouvelle saison.
Ouais.
J'ai un objet de 12 secondes à créer qui doit correspondre à des codes un peu rythmiques, pas musicaux, mais de vidéos. Voilà, y a telle seconde qu'ils vont devoir extraire parce que c'est le jingle ou je sais pas quoi. Bon. Enfin, je sais que dans ma pratique créative, je trouve ça hyper agréable. Je sais pas, si je faisais du cinéma, je suis sûr que je trouverais ça trop cool. J'aurais trop envie d'être un peu David Lynch et un peu faire des pubs Nespresso, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Parce que quand t'as le bagage technique, parfois, quand j'ai pas du tout envie de créer la meilleure chanson de la Terre, tu vois, si j'en avais les capacités en plus. Des fois, je trouve ça trop cool. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à créer de la musique, ce que je préférais faire, c'était copier. Je pense que quand je crée, c'est souvent ce que je fais, en fait. Je copie un truc. Là j'adore tous les trucs d'hyper pop. J'essaie de copier, je suis super nul, je suis incapable de faire ça. Je copie. En copiant, je vais réussir à trouver quelque chose qui va juste être ce que moi, je suis capable de faire.
Qui va te parler à toi et qui va te sembler être plus personnel, quoi.
C'est ça. Mais en attendant, tout ce temps d'échec et de copie, ça me donne... des réflexes techniques, et réflexes techniques qui peuvent être appliqués sur n'importe quel type d'usage sonore, donc évidemment de la musique, de la création pour les artistes, et puis après pour n'importe quel type de format. Enfin, moi, je vois vraiment la musique, l'aspect créatif en tout cas, comme un truc hyper ludique. J'essaie de rester très enfant par rapport à ça. Dès que je crée un truc, j'ai envie d'être content d'être sur mon logiciel ou sur mon piano. Peu importe ce qui sort, peu importe ce qui est partagé, peu importe ce qui est lucratif, la flamme de juste créer quelque chose et être content, c'est, je pense, vraiment le plus difficile à maintenir au fil des années, au-delà d'avoir quelque chose de très cristallin, de très parfait, juste quelque chose que t'es en capacité de faire, ce n'est pas si évident.
Bah non, et puis j'imagine que de s'écouter, c'est pareil, d'avoir une certaine objectivité sur ce que tu fais, c'est pas si facile non plus.
Ouais, c'est une question d'objectif, je pense. Si je te gribouillais quelque chose là sur une feuille, est-ce que j'ai besoin d'avoir un avis objectif dessus? La sensation de faire le mouvement, c'est agréable. Ouais. Le reste, c'est de l'industrie, c'est du commerce.
Et
c'est un autre métier.
Et quelle part du coup de justement de la création musicale ça occupe dans ta vie? Parce que du coup, tu es encore assez discret, du coup, en tout cas sur ce que tu sors, par exemple sur les plateformes.
Je sors pas grand-chose, hein, donc non, je sais pas si je devais faire un pourcentage, peut-être 20 ou 30%.
D'accord.
Mais je crois que ça correspond au pourcentage max que j'ai envie de dédier à laisser la création. Enfin, j'ai pas envie que la création soit au centre de mes activités.
Ok.
Sans doute parce que je sais pas, peut-être ça me fait peur. Peut-être que c'est pas assez. J'aime bien créer des choses. Je pense que c'est la même chose que quand j'écoute de la musique ou que je fais des playlists. J'aime bien être super focus et dédié sur quelque chose et essayer de pas sortir de cette bulle-là. Avoir le temps de respirer pour avoir d'autres conversations, réfléchir à d'autres choses et puis revenir. Et j'ai pas envie d'être écrasé par une obligation d'aller puiser au fond de réserves créatives constantes. J'aime bien l'idée d'être plus drivé par les rencontres que je vais faire. Et le mystère que ça peut apporter, là, ça se trouve, en descendant, je tombe sur quelqu'un, c'est absolument la personne avec qui j'ai envie de faire un an de musique. J'ai envie de faire rien d'autre avec personne d'autre pendant ce temps-là. Bah, je pense, Iba, il y a un peu de ça, ce duo d'artistes strasbourgeois, deux frères, dont l'un des deux m'a contacté un jour sur Instagram parce qu'il suivait mes playlists, justement, et No Fun et tout ça, et il voulait que j'écoute sa musique. J'écoute tout ce qu'on m'envoie tout le temps, car c'est important de respecter les gens qui prennent le temps d'envoyer leurs œuvres, quoi. Donc voilà, j'ai écouté, j'ai adoré. On s'est rencontrés, on s'est bien entendu, on a commencé à bosser ensemble. Pas exclusivement sur une échelle musicale, je bosse les deux EP qu'ils ont sortis, j'en suis leur éditeur, donc je bosse avec eux sur l'autre aspect derrière, quoi. Mettre en place, les connecter avec des gens qui peuvent être utiles pour leur développement. Et là, ils ont un projet qui sort, je crois que la date c'est mi-mai là.
Parfait, pour l'été qui arrive, c'est
parfait. Il y a
très bonne idée.
Un projet 10 titres qui sort que j'ai réalisé du coup et que j'ai co-composé avec Kanji, qui est un beatmaker de chez eux, un Strasbourgeois aussi qui est trop trop fort. Il bossait beaucoup avec eux depuis le début. Et Lies Cassie, qui est pareil, un très très bon compositeur, bassiste. Donc on a vraiment fait un projet en musicien avec des vrais instruments.
Trop bien.
Et on s'est bien marré. Je pense que j'avais pas d'autres idées que ça, j'avais juste envie de faire ça. Pour le faire bien, 10 titres, c'est ambitieux, puis il y a toujours plein d'idées. Je sais pas quoi, on a fait enregistrer des violons à Los Angeles. J'ai un gars que j'adore, que j'avais rencontré dans le Kentucky. À chaque fois, j'aime bien qu'il fasse des guitares sur mes projets parce que il vient de vraiment un endroit aux États-Unis où il y a un son spécifique. Oui. J'aime trop cette couleur là aussi, la country, le bluegrass, la vraie musique trad des terres.
Ouais.
Et je trouve ça toujours marrant de l'avoir. Donc il a 2-3 morceaux, il y a des petits bouts de guitare à lui que j'ai été samplé. Ouais, j'aime bien me prendre la tête sur le choix des intervenants, un peu des couleurs musicales, et le faire sans exotisme. Là, je trouve ça trop cool que j'ai ces petites guitares qui viennent vraiment de là-bas, par ce mec à qui on a vraiment discuté, que je connais, que j'ai été voir. C'est réel un peu, j'aime bien.
Forcément, la nature du son n'en est que plus riche, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense que quand je crée, quand je suis vraiment en mode artiste, compositeur, machin, j'ai vraiment envie de faire des choses qui qui raconte des histoires. Parfois, c'est pas la chanson elle-même qui raconte l'histoire, mais c'est un peu le contexte. Et je dis pas histoire au sens, il faut que quelqu'un écrive un livre dessus après. C'est plus dans 50 ans, quand je vais recroiser ce bon Michael du Kentucky que je n'ai pas vu depuis longtemps, on a ça en commun.
Oui.
Qui traverse la géographie, car je ne l'ai pas vu depuis un petit voyage au Canada en 2018. Et sinon, on entretient une relation virtuelle depuis 10-15 ans à juste s'envoyer de la musique tout le temps.
Comme ça c'est pour ça, c'est vraiment cool la musique.
C'est ça.
Pour revenir un petit peu au morceau que j'ai passé, mais dans un autre genre du coup, j'avais envie de revenir avec toi sur une discussion du coup que vous avez eue tous les deux il y a pas si longtemps lors d'une première écoute de l'album de Rosalía. Vous étiez invité à intervenir et à donner un peu vos avis là, à l'écoute de l'album.
Par Jetlag et Robin
qu'on
que
a...
vous avez entendu dans ce podcast.
Exactement. Tu pouvais reprocher à l'album de Rosalía sur le moment que tu trouvais que c'était pas assez généreux. Quand tu l'as dit, je trouvais que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a parfaitement parlé. Mais du coup, j'avais envie de te demander et te faire parler sur... Pour toi, qu'est-ce que c'est que de la musique généreuse ?
Ah, moi, j'ai ma petite théorie que la musique populaire, quand même, il faut qu'elle ait une forme de générosité au sens où les œuvres que tu fais... Alors je ne sais plus si c'est une idée originale de moi ou si j'ai lu ça dans un livre. On va faire comme si c'était mon idée. Je suis persuadé que les chansons, on ne peut les créer qu'à 50%. C'est le maximum de ce que tu peux créer. Les 50% qui restent, c'est toujours le public qui décide. C'est toujours le public qui se réapproprie. On est sans doute à la meilleure époque pour vivre ça. C'est, je sais pas, Stevie Nicks, quand elle fait Dreams de Fleetwood Mac, elle fait sa chanson dans les années 70. En fait, les 50 autres pourcents, ils évoluent d'année en année. Là, les 50 autres pourcents, c'est des kids sur TikTok qui font je ne sais pas quoi avec cette chanson. La générosité, je parle vraiment de musique populaire que tu donnes au maximum de gens. Je pense qu'il faut qu'elle garde toujours un côté... il faut que les gens puissent s'approprier quelque chose et... en détourner quelque chose, qu'ils aient de la place pour raconter eux-mêmes leur histoire à partir de ce que t'as créé. Donc, je pense que c'est souvent ce que je vais chercher dans la pop. Je sais pas si j'ai un bon exemple. Drake, je pense, c'est de la musique extrêmement généreuse. C'est incroyable le nombre de captions Instagram qu'il a donné à toute une génération. Mmh. Même sur des artistes dont je suis pas particulièrement fan. Je sais pas, le premier exemple qui me vient, c'est les chansons d'amour de Nekfeu, par exemple. Moi, c'est pas ce qui m'émeut le plus, mais il y a quelque chose de très généreux dans la manière dont il l'a fait. Il a donné des mots pour le public. Et le Rosalía, je crois que je l'ai trouvé un peu plus démonstratif que généreux.
Ouais.
Après, elle fait ses œuvres, donc elle a raison de... Moi, je suis personne pour dire si c'est bien ou c'est pas bien. En vrai, quelques fois que j'ai réécouté, j'ai rien à dire sur la qualité. C'est une artiste prodigieuse, vraiment, Rosalía. Mais l'objet album en tant que tel, peut-être que je l'ai écouté en me disant tout ce que je peux faire à la fin de cet album, c'est applaudir. Je crois que j'aime pas trop les œuvres où je peux juste applaudir à la fin et pas imaginer quelque chose à partir d'eux. Mmh. Me dire, ok, donc il y a cette pièce-là, en fait, moi je peux la vivre de cette manière. Ou il y a, ça me fait penser à tel élément. Là, j'ai l'impression que juste elle a mis tous les trucs mortels qui existent en même temps. Et à la fin, je peux juste être époustouflé. J'avais la sensation que c'était la seule option que j'avais à la fin de cette belle œuvre. Je pense que la musique qui me plaît le plus, dans la musique populaire inclus, c'est la musique où il y a beaucoup de générosité et un tout petit peu d'imperfection.
Mmh. Ouais, mais je trouve ça drôle, le premier morceau que tu nous as ramené, je trouve ça déjà marrant que tu le dises ouvertement, c'est que c'est pas très bien, mais ça me touche.
Je comprends tellement.
Je trouve ça drôle d'avoir ce recul en fait sur la musique parce que moi, instinctivement, peut-être que basiquement, j'ai envie de te dire, t'aimes un morceau, donc c'est trop bien, hein, tu vois. Et je trouve ça intéressant dans ton rapport à la musique de te dire non, c'est pas très bien. J'ai ce recul-là, mais ça va me toucher. Je trouve que c'est pas si commun, en tout cas, comme manière d'apprécier la musique, et je trouve ça plutôt très lucide, en fait.
Parfois, je me dis que le fait que la musique soit aussi industrielle, ça fait qu'on est peut-être persuadé que les meilleures œuvres de musique sont celles qui sont les mieux craftées en studio. Et parfois, ça va plus loin que ça. C'est vraiment de l'émotionnel. C'est pas la perfection qui compte. J'ai un souvenir en ce moment. Je sais pas pourquoi je pense tout le temps à ça, là, en ce moment. Un jour, je me retrouve coincé dans une sorte de... je suis dans une sorte de date que j'ai pas réclamé à Barcelone. Je suis dans un endroit, je peux pas m'échapper de l'endroit. Je suis avec cette fille qui est russe et je peux pas m'en échapper. Bref, il faut que je l'accompagne, je sais pas quoi. Il y a un concert en haut il y a un petit mont à Barcelone qui monte pas très haut, à 200 mètres, qui s'appelle Mont Ruic. Je marche avec elle, je monte. C'est 150 mètres quand même, il faut monter, quoi. Et j'ai pas envie d'être avec elle. Et en haut, il y a une sorte de concert. Il y a une projection, en fait, et il y a des gens qui jouent de la musique sur un film muet. Et c'est pas terrible. Mais les gens qui jouent, ils jouent une de mes chansons préférées et dans une version catastrophique. Ils jouent Pyramid Song de Radiohead, qui est le deuxième morceau sur l'album Amnesiac, qui est vraiment un morceau que je trouve sensationnel. Et j'arrive sur ce mont en espérant une libération, et je n'ai pas de libération. J'écoute une version pourrie d'une chanson que j'aime trop avec quelqu'un que j'ai pas envie d'être avec elle. Et depuis ça, quand je réécoute Pyramid Song, j'arrive pas à ressentir la même émotion que j'avais avant quand j'écoutais juste l'enregistrement, parce que je pense que l'émotion forte qui me reste, c'est ce moment de vie extrêmement imparfait. On peut difficilement faire plus imparfait, mais juste je me rappelle de la sensation que c'était. Ce que j'ai entendu dans Pyramid Song de Radiohead, évidemment, ça n'aura jamais la même force que ce souvenir que j'ai de ce contexte-là en 2012 à Barcelone. Si vous voulez la fin de l'histoire, qui s'est vraiment très très bien résolue, parce que j'ai réussi à me retirer des griffes de cette fille qui était vraiment très très acharnée sur moi. Une histoire incroyable d'un chien qui est tombé malade et du coup il fallait que je m'occupe du chien. Du coup j'ai pu ne pas rentrer dormir au même endroit avec elle. Bref. J'essaie de dire en tout cas que l'existence de la musique dans nos vies, j'espère que c'est pas juste lié aux œuvres magnifiques qu'on entend qui sont confectionnées dans des maxi studios avec des maxi budgets. L'émotion qu'il y a dans les œuvres, ça va plus loin que juste les enregistrements.
Je crois que c'est ce qu'on essaye de ramener assez souvent là, c'est comment aussi montrer comment la musique, tu vois, elle est forgée par ton écoute au moment où tu... Soit où tu la découvres, mais pas nécessairement d'ailleurs, effectivement, ou comment tu l'expérimentes tout au long de ta vie. Quoi.
On va en reparler tout à l'heure. Je vous préviens de ce pas.
Bah écoute, c'est très bien. Je pense qu'on peut passer d'être meilleur au son d'après.
Ouais.
Eh bien, Schkid, du coup, c'est à ton tour, à nouveau, de nous présenter du coup ton deuxième son. Qu'est-ce que tu nous ramènes de beau ?
Et j'ai choisi Shrooms de 09 Peas. Je sais pas si ça se prononce comme ça, le nom de cet artiste. Alors, je n'ai pas du tout creusé, je sais pas d'où elle vient. C'est une jeune artiste de la nouvelle scène de tous les petits jeunes fougueux qui font quelque chose qui est au croisement entre le rap et plein d'autres styles. Je vais pas dire lesquels parce que je vais m'afficher. Enfin, je dirais sans doute les mauvais styles. De la musique, mais extrêmement moderne, c'est génial. Il y a tout un tas de trucs de basses distordues.
Je sens que je vais adorer déjà.
Je comprends la moitié de ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de mots en anglais à moitié et des mots en français. C'est génial.
Trop bien, on écoute.
C'était donc Shroom de 09 Peas. 09 Peas, je ne sais pas comment on dit. J'aime beaucoup cette lignée musicale.
Ouais, moi aussi.
Les gens qui écoutent le son d'après, je pense, sont au courant maintenant. Parce qu'on avait ramené Roseboy 666, ouais. Baby Solo, tout ça. Ouais.
On adore ça.
Je pense que c'est dans la même lignée, quoi.
Ouais, carrément. Alors, elle, particulièrement, je trouve elle a un truc genre au croisement entre, je sais pas... Okelou et Playboi Carti. C'est exactement ça que j'ai envie d'écouter là.
Je trouve que c'est vraiment cette scène-là. Je l'ai pas encore assez diguée et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de trucs vraiment, vraiment chambés quoi. Et c'est marrant parce que donc Rose Boy CC a sorti son album là il y a un mois ou deux je pense, et j'ai été invitée, comme j'en avais parlé dans le son d'après, j'ai été invitée à la release party et j'ai découvert un monde de gens qui connaissent par cœur des morceaux un peu dans ce style là et vraiment tu sais genre il y avait une soixantaine de personnes à cette release party et il y avait que des personnes qui connaissaient par cœur des morceaux que j'avais jamais entendus de ma vie. J'étais vraiment en mode ah, donc on est vraiment sur une niche de gens SoundCloud que genre vraiment j'ai aucune ref, tu vois. Et eux ils étaient tous entre eux en train de se dire ouais, le son de machin trop bien et tout, c'était incroyable. Et du coup j'étais là waouh, encore un nouvel univers à découvrir, c'est
ouais,
trop.
Je comprends, il ouais, y a vraiment toute une nouvelle scène comme ça qui se développe là. Moi je trouve ça intéressant là, ce, en tout cas dans le track que tu ramènes en particulier là, ce contraste entre tu sais les grosses basses qui te tabasse comme ça, et puis quand même il y a un esprit, l'esprit il est assez suspendu tout ouais, le reste, tu sais, la prod derrière et elle d'ailleurs dans son vocal, que moi c'est pareil, j'avoue j'ai quasiment pas compris une phase
ouais,
là sur, mais elle est là, elle navigue entre les deux, je trouve.
Ouais, mais tu sens qu'en plus j'ai pas l'impression que ça soit entre guillemets important, dans sens où c'est vraiment un instrument parmi les autres un peu.
C'est ça, ouais, c'est vraiment mixé comme une piste instrumentale comme une autre.
Et donc tu te souviens comment tu découvres cette
elle,
artiste?
Je sais plus, bah, en vrai je me suis fait la même réflexion que toi, je sais plus à quel moment. Ah si, waouh, j'étais à une soirée l'année dernière avec 99, qui est un peu un G artiste,
ah oui,
compo,
oui,
super fort.
Le projet Casino là.
Avec, voilà, ouais, Casino. Je me retrouve à une soirée chez 99. Il y avait tout un tas de gens de la nouvelle scène. Donc, je suis dans une soirée avec Rally, avec Lafèvre, avec Sunbest, avec Shironeki. Genre, j'avais l'impression d'avoir 2000 ans. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, ouais, je suis complètement passé à côté de... Enfin, effectivement, pareil, tu vois, ils jouaient ouais, plein de morceaux. Je voyais pas du tout de quoi il s'agissait. Et du coup, j'ai pris le temps un peu de me rattraper, même d'échanger ça, beaucoup avec certains des représentants de cette nouvelle scène pour se mettre à jour. Et du coup voilà, dans la même démarche, à un moment je me suis dit bon, il faut vraiment que je le fasse presque à l'ancienne quoi. Donc j'ai été diguer sur SoundCloud tous les trucs qui existent, à passer des heures à trouver ah ok, donc elle en fait elle est connectée à un tel, l'algorithme de recommandation m'emmène,
il est hyper bien
ça,
je trouve l'algorithme de recommandation de SoundCloud franchement ouais, je l'ai trouvé plutôt efficace.
Il est pas mal, celui de Spotify aussi
ouais.
Ouais, sur ces scènes là franchement il est pas mal. Et j'écoute beaucoup aussi les... je sais pas si je dirais que c'est un équivalent, mais de l'autre côté sur la nouvelle scène américaine d'artistes un peu comme ça, dans quelque chose qu'on va pouvoir considérer de l'avant-garde,
ouais.
Les algorithmes Spotify sont pas trop mal, surtout sur des artistes. Alors j'en ai deux en tête qui me fascinent, un qui s'appelle Summers, un qui s'appelle Destroy Lonely. Ils ont une particularité, je crois que j'avais pas vu ça, donc peut-être je vous dis quelque chose que vous avez déjà trouvé sur ces plateformes, mais SoundCloud étant une plateforme gratuite, tu peux créer plein de comptes et avoir différentes identités, différents styles que tu mets. Mmh. J'avais pas trop vu ça sur Spotify, puisque c'est payant Spotify, donc tu te limites à un seul compte en général. Et donc ces artistes-là, Destroy Lonely par exemple, quand tu cherches sa musique, tu tape Destroy Lonely et tu trouves sa musique. Mais dans les recommandations, il va te recommander d'autres profils. Et en fait, c'est juste lui, dont un profil qui s'appelle Archive. Donc ces artistes-là, ils ont des profils Archive. En fait, c'est un peu les phases B. Okay. Et du coup, tu vas diguer et de temps en temps, il y a des morceaux. Ils sont là, ils apparaissent, ils disparaissent.
Incroyable.
Et donc, ça te crée un rapport à Spotify qui est différent. Généralement, juste t'écoutes de manière un peu passive. Il y a un peu plus un côté... quête que moi
ah, bien sûr
je kiffe, tu vois. Donc là je vous ai dit Archive, mais il y a genre Destroy Lonely Alternative, Destroy Lonely machin, et du coup t'as 4-5 comptes.
Ah, mais incroyable. Et donc du coup c'est des profils artistes.
Ouais, des okay, profils artistes sur Spotify.
Trop bien.
Moi je suis très fasciné par ça là. Du coup j'attends que quelqu'un fasse ça en France. J'imagine cette nouvelle scène, si elle est inspirée par ça, elle va pouvoir à un moment créer comme ça ces comptes alternatifs qui correspondent en vrai, je pense, à des manières de consommer. Bon voilà, tout le monde ne va pas sur SoundCloud. A priori, tu y vas si t'es vraiment un passionné de musique.
Oui,
mais
c'est sûr.
De plus en plus de gens ont leur plateforme, donc attitré, voilà, le Deezer, Apple, Amazon, Spotify. Donc ça peut faire sens qu'il y ait des comptes alternatifs pour ceux qui ont continuellement envie de chercher.
Et à quel point toi, du coup, tu digues? C'est quelque chose dont tu te lasses pas, c'est-à-dire cette quête permanente. Je sais pas, de la nouvelle pépite ou quoi.
C'est des phases. De la nouvelle pépite, pas spécialement.
D'accord.
Mais plus du nouveau truc que je vais trouver
cool.
Soit cool, soit des nouveaux artistes avec lesquels je vais pouvoir échanger directement quand je peux leur être utile. En vrai, c'est des phases, je pense, comme tout le monde. En vrai, comme je suis vieux désormais, j'écoute en boucle juste les trois trucs que j'aime bien. Et après, quand j'ai l'impression que j'ai écouté trop de fois d'affilée telle chanson, je me dis, ah, quand même, moi.
T'es changé.
Ouais, vas-y, prends-toi la tête. Soit ça, soit au gré des rencontres, en vrai. Là, actuellement, j'ai une stagiaire qui travaille avec moi, qui finit son stage cette semaine. Bon, bah, elle est plus jeune que moi, elle est 15 fois plus stylée que moi, elle a des meilleurs goûts que moi. Bon, bah, je fais. C'est cool, tu vois. Je fais pas le fier. Elle est là, elle me dit, bon, moi, j'écoute ça. Elle m'a fait une playlist de trucs coréens que je suis incapable de connaître par moi-même. Bah, c'est génial, je prends le temps, tu vois. J'écoute et du coup, j'aime bien tel truc, donc je vais aller creuser pour pas avoir l'air trop largué. Moi, je trouve la musique, ça a un côté tellement. La culture musicale, en tout cas, ça a quelque chose de social pour moi. Et j'aime trop l'idée de en connaître un peu sur tous les styles, sur le maximum de styles. Juste parce que je sais que si je suis n'importe où dans le monde, je peux avoir une conversation. Tu vois, si. Bah là, par exemple, si demain je devais aller au Cap-Vert, bon, j'espère pas parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais si je vais au Cap-Vert, je sais que je peux au moins avoir une conversation.
Ah ouais, je vois ce que tu
veux. Qui va aller peut-être un tout petit peu plus loin que Cesaria Evora. Parce que je me suis pris la tête à aller creuser telle référence. Et au moins, j'ai ça. Et comme j'ai la chance de faire de ma vie les choses qui me passionnent, je suis amené à rencontrer constamment tout un tas de gens. Et. Qui ont des profils différents, qui viennent de cultures différentes, voilà, il faut être humble, quoi. Les gens connaissent plus de trucs que moi, donc je me prends la tête à creuser pour être certain que je n'ai pas l'air trop stupide dans les conversations et qu'elles concernent, je sais pas, on peut avoir une conversation sur la musique égyptienne des années 70, comme la techno de Détroit des années 80. J'essaie de connaître vraiment le spectre le plus large possible, déjà parce que vraiment juste ça me passionne et j'adore discuter avec moi-même. Je suis tout seul et je parle de trucs avec personne n'a envie de parler de ça avec moi, tu vois.
J'allais dire l'amour de la conversation, c'est ça, seul ou, ouais, ou entre amis.
Mais c'est cool, ça me va, ouais. Je sais pas si j'ai vraiment envie de parler avec qui que ce soit de mes phases de recherche, de, tu vois. Là, oui. Quand j'écoute pas de la soul, je pense que mon autre style de musique préféré, c'est l'italo disco des années 80. Et c'est incroyable. Je pense que je suis une encyclopédie de tout ce qui est sorti en Italie entre 79 et 83. Je suis intestable. Vraiment, oui. Tu me mets un blind test italo disco, c'est une boucherie. Je connais des trucs. Et bon, bah, ça n'a aucun intérêt. Personne n'a envie de parler de ça avec moi. Et en vrai, je pense que j'ai envie de parler de ça avec personne.
Je connais une personne qui sera très intéressée.
Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de...
Je
pense
que
c'est plus un truc égoïste, tu vois. J'aime bien être spécialiste,
ouais, de
ça.
Ouais, de te dire, tiens, ça, ouais. Je le sais, je suis le meilleur. Et,
juste, ça me fait plaisir. Et ouais. Au-delà du meilleur, juste...
Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, je connais mon sujet
ouais,
sur
ça.
Le...
C'est ça.
Doigts,
après, par contre, je vois comment ces éléments peuvent m'être utiles dans tout un tas de choses que je peux faire, que ouais. Ce soit quand j'écris, quand je fais une émission, quand je fais de la musique, voilà, tel truc que j'ai été me prendre la tête à diguer. À un moment donné, je sais que ça peut me servir. Donc, j'essaie de garder cette passion intacte de la recherche qui vient très profondément du fait que je suis un compositeur de base et je suis fan de rap. Donc, juste, ma vision de la musique, c'est le sample, en fait. Juste, je cherche toujours le sample parfait. Et moins maintenant, enfin, je vais moins aller chercher des trucs pour sampler, c'est plus pour le plaisir de l'écoute, mais je suis toujours à me dire si je vais regarder là dans ta sélection de vinyle qui est à ma gauche, peut-être que je vais tomber sur quelque chose que je connaissais pas et qui va me chambouler. Donc il faut toujours chercher.
Et du coup, tu te décris quand même un fan, mais bon, il n'y a pas que ça quand même. Tu fais de la musique, tu écris sur la musique aussi quand même, on l'a pas cité, mais du coup, tu as écrit quand même un certain nombre d'articles sur la musique et son tout simplement l'univers qui gravite autour. Et puis du coup, de plus en plus, j'ai l'impression, alors dis-moi, parce que je ne saurais pas situer à partir de quand, mais tu t'investis aussi énormément, du coup, en dehors, c'est-à-dire que ça soit, je pense, en réponse, ou en tout cas dans la continuité de l'article que tu avais écrit sur la santé mentale des artistes, du coup, tu t'engages sur ces questions-là, et puis dans l'accompagnement aussi, j'ai l'impression que tu essayes vraiment d'être proche. Ouais, tout simplement des musiciens dans l'accompagnement pour qu'ils soient bien encadrés, que ça soit dans leur rapport avec la SACEM ou enfin toutes ces questions-là. En fait, j'ai l'impression que toute l'industrie musicale te passionne aussi et du coup que tu es de plus en plus présent. Comment ça se passe du coup pour toi le cheminement, comment tu passes finalement de l'un à l'autre et que t'arrives à faire, bah, comme on disait finalement en ouverture d'épisode, quoi, et t'as 360 sur ces questions-là, quoi, autour de la musique.
Bien, je pense que toutes ces choses vont de pair. Et, ouais, moi, j'étais signé avant en tant que compositeur chez Sony, anciennement ATV, désormais Sony Publishing. Mm-hmm. J'avais un projet à l'époque qui commençait à prendre un chemin, mais l'artiste avec qui j'étais, ça fonctionnait pas trop. Puis mon rapport avec mon éditeur était pas... C'est pas bien passé, donc j'ai dû rompre ce contrat. Et les 3-4 heures qui ont suivi, je me suis dit, ah, je veux plus jamais faire de musique. Ça m'a dégoûté de l'expérience, quoi. J'étais pas content. 3-4 heures après, tout allait bien, tu vois, mais juste ces 3-4 heures-là, je me suis dit, je comprends pas comment on peut avoir envie de créer quelque chose et à un moment, une expérience nous donne l'impression qu'il faut arrêter. Mmh. Et bref, je pense que c'est un peu la question qui m'anime depuis, de me dire comment est-ce qu'on peut faire pour que l'environnement créatif soit plus clair, plus digeste, plus respectueux, plus simple en fait. Je pense que les gens qui se lancent dans ces métiers, étant donné que le poids industriel est énorme, on se dit que voilà, on se lance, on va gagner de l'argent, on va faire je sais pas quoi, avoir une carrière en fait. Alors que de base, on voulait juste faire des gribouillis sur cette feuille et on a besoin de conserver quelque chose de naturel et d'instinctif pour que ça fonctionne, pour que ce soit réel. Mes recherches à ce niveau-là, donc que ce soit effectivement la santé des artistes, tout le côté accompagnement, structuration, qui est en vrai juste des réflexions de simplification presque administrative. Enfin, c'est comme la santé, hein, c'est des questions globales, ça dépasse le cadre de la musique. C'est juste que je suis pas un parlementaire, tu vois, donc j'essaie de m'adresser à mon cadre, mon milieu, la musique, ce que je maîtrise à peu près. Je crois que c'est important de ne pas être que d'un côté. Après, ça, c'est vraiment le sens de tout ce que je fais depuis le début. J'ai vraiment envie d'avoir une perspective sur tout. Quand je crée de la musique, je trouvais ça fascinant que des journalistes m'interviewent. J'ai eu envie de voir comment c'était de l'autre côté. Donc, ça m'est arrivé d'interviewer, ça m'est arrivé d'écrire, juste pour comprendre la perspective, pour que ce soit utile des deux côtés. Quand je bosse avec des artistes, maintenant, je sais ce que c'est un journaliste musical. Je sais ce que ça ressent, je sais ce que ça reçoit comme quantité d'informations. Je sais comment il faut qu'on discute. Et j'essaie d'utiliser cette expérience-là, ces expériences-là, pour... J'ai co-fondé un collectif qu'on a appelé Cura, qui travaille autour de ces questions de bien-être et de santé dans l'industrie de la musique, parce que ça n'existait pas particulièrement, enfin c'était pas structuré tel quel avant qu'on mette ça en place avec mes collaborateurs et mes collaboratrices. Ce que je veux, c'est très simple, ma vision, c'est que il y a cette petite image que j'aime bien utiliser, j'espère qu'elle est assez parlante. La musique, par exemple, c'est la Formule 1 sans arrêt au stand. Ce que j'essaie de faire avec Cura, c'est juste créer un arrêt au stand. On se lance dans des métiers qui vont hyper vite, qui changent très rapidement, où la notion d'être largué au-delà d'un sentiment personnel, elle a un impact professionnel en fait. À un moment donné, si t'es largué, on va plus t'appeler, t'as plus de travail en fait. Donc tu te forces à ne pas être largué. Donc, tout le monde se prend la tête sur des trucs qui n'ont aucun sens. Selon moi, ces secteurs-là, ils manquent d'un espace où on peut partager ensemble, on peut respirer ensemble, on peut être redirigé quand on a besoin d'être redirigé. Et c'est ce que j'essaye de créer. C'est vraiment très très humble. Hein. Je suis pas un professionnel de la santé, donc j'ai pas de. Avec Cura, j'ai pas de solution. Tu vois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une enquête exploratoire il y a 3 ans qui nous permet d'avoir des premiers chiffres sur ces questions qui ont été très utiles, je pense. Là, dans 2 semaines, je crois, on présente la suite de ça. On a fait cette fois une vraie étude avec des chercheurs. Pareil, dans le but vraiment juste d'avoir des chiffres qui correspondent à quelque chose. Et que voilà, quand on parle de santé des artistes, ben, on parle avec du concret. On a fait ça, on a mis en place un répertoire qui est accessible gratuitement. Donc pour ceux qui cherchent artistes comme professionnels de la musique, ça m'a tenu à cœur d'avoir tout le monde ensemble.
Oui, les deux, ouais.
Voilà, on a un répertoire et nous, ce qu'on fait, c'est juste on redirige. Tu vois, ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'appellent, qui me disent voilà, j'ai mon artiste, il va pas bien. Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Et nous, du coup, on a pris le temps de rencontrer tout un panel de spécialistes, des nutritionnistes, des gens qui sont spécialisés en postural. On donne des conseils pour juste mieux te tenir. Tu vois, des physiothérapeutes, des kinés, des psys, bien entendu, certains dont la fonction est spécifiquement de travailler avec les musiciens et les musiciennes. Ce qui, pour moi, est une découverte formidable. Je savais pas qu'il y avait des gens, leur métier, vraiment, c'était que bosser sur les corps et les esprits des artistes. Ben, y a des gens qui font ça. Du coup, nous, on essaie juste de rediriger. Notre répertoire, ça me tient à cœur de le dire, n'est pas un répertoire parisien. Ça me rend heureux de savoir qu'on a des spécialistes à Cannes, à Tours, à Rennes, à Bruxelles. C'est un peu partout sur le territoire. Il y a plein de gens qui font ça, j'ai absolument rien inventé, dont des gens avec qui on a des bonnes relations. Il y a une super asso dans le nord vers Lille, qui s'appelle Absart, qui a pareil un répertoire dont on s'est inspiré, un super répertoire avec que des spécialistes sur la région dans le nord, vraiment des spécialistes de tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être utile pour les gens qui travaillent dans le domaine culturel. Mmh. À mes yeux, il faut qu'on puisse avoir de l'espace pour respirer, pour que juste les gens qui se lancent puissent être dans un environnement juste un peu plus serein. Les curas, on n'est pas non plus... on ne prend pas la place de celles et ceux qui travaillent sur les inégalités femmes-hommes, par exemple. Mais on est sur des thématiques assez proches, quoi. De choses qu'on constate qu'il faut absolument régler, en fait. Mmh. Et que si on ne les règle pas maintenant, on continue des cycles catastrophiques de comportements qui sont néfastes, qui sont parfois criminels, et qui font qu'il y a plein de gens qui se démotivent et se dépassionnent. Ça me fait beaucoup de peine, ça, la dépassion. Il y a trop de gens que j'ai rencontrés, même évidemment, malheureusement, des jeunes filles, par exemple, qui se lancent et qui ont plus envie de continuer, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement toxiques. Les métiers au global, hein, que tu travailles en médias, en maison de disques, que tu sois artiste toi-même, tu te retrouves dans des contextes extrêmement toxiques qui te démotivent à un moment donné, parce que tu te dis à quoi bon continuer dans cet environnement où les gens ne me respectent pas, en fait. Cette notion un peu de manque de respect et de choses à corriger, vraiment ça m'obsède, sans doute aussi parce que moi-même je suis issu de la musique. Mon père faisait ça il y a longtemps. Moi, je sais pas, peut-être que j'aurai des enfants qui vont faire ça. Je peux pas me dire, j'ai rien fait pour qu'ils soient pas dans un contexte où juste ils sont plus à l'aise quand ils font leur truc. Et du coup, être à l'aise, ça inclut tout un tas de trucs. Être à l'aise dans ton bien-être, comment tu te sens quand tu fais des choses, est-ce que t'es bien respecté. Et évidemment, tout ce pan un peu administratif de, voilà, c'est quoi les règles, en fait ? Est-ce que t'es bien protégé par les bonnes personnes ? Est-ce que t'as bien compris tel pan ? Est-ce que tel accès au financement, tu sais que tu peux l'avoir ? Voilà. Là, je pense beaucoup de mes activités, ça consiste en ça actuellement.
Oui, c'est de la pédagogie, en fait, là, que tu fais, notamment sur cette partie-là, plutôt accompagnement des artistes, etc., avec notamment l'émission Masters, donc, qui est dispo sur la chaîne YouTube de Ventrap, que tu co-animes avec Suzanne Combeau, du coup, qui a aussi confondé Cure avec toi.
Ouais, alors, pour préciser, si je peux me permettre, sur Masters. Sûr. Donc, effectivement, Masters, c'est un programme vidéo qu'on met en place actuellement avec Ventrap, qui est produit par La Gamme, qui est un collectif d'artistes menée avec une fougue absolument extraordinaire par effectivement Suzanne Combeau, qui est artiste, compositrice, interprète plutôt punk, rock. Dans La Gamme, il y a plusieurs artistes qui sont fédérés pour justement réfléchir aux problématiques des artistes, et on tâche d'apporter des réponses aux artistes. Ouais. Et ma précision, elle est sur le fait que, voilà, effectivement, on a lancé ce programme qui est un programme copieux. Ça me tient à cœur de faire quelque chose justement qui est en fait pas de la pédagogie. On n'explique rien, c'est très haut niveau. Si t'as envie de comprendre, il faut que tu te prennes la tête.
Oui, mais en fait, c'est intéressant parce que dans un des épisodes, il y a Fianso et la DG de la SACEM. Et en fait, il y a justement un moment donné où Sofiane dit « Mais en fait, les artistes, les nouveaux artistes, quand ils arrivent dans la musique, ils n'ont pas de questions, en fait. Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ouais. Et je trouve que faire une émission comme ça, c'est déjà, en fait, insérer une graine de curiosité dans la tête des gens. Au moment où vous parlez des droits voisins, des droits de je sais pas quoi, machin, non, je comprends rien. Je suis vraiment larguée. Mais en même temps, du coup, je suis sortie de là en me disant, putain, j'ai trop envie de savoir parce que ça m'intrigue trop maintenant, tu vois.
Ben, ça fait trop plaisir parce que c'est vraiment cet objectif-là. Ce que je veux, c'est que cet épisode, ces émissions aient créé des questions. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est ça le souci, c'est que beaucoup de jeunes se lancent sans savoir quels peuvent être leurs problèmes. Donc j'ai envie qu'on puisse, avec cet espace-là, mettre les problèmes le plus en avant possible, poser le plus de questions. Notre objectif, c'est que ce soit incarné par les artistes. Donc la présentation du truc va tourner, ça va pas être moi à chaque fois, certainement pas. Suzanne, je sais pas encore, parce qu'elle est vraiment très très forte et très très smart, donc c'est hyper important qu'elle soit là, parce qu'elle elle connaît trop le truc sur le bout des doigts. Mais en tout cas, on a envie que les artistes se l'approprient, et justement qu'on puisse montrer tout un tas de différents visages, des gens qui viennent d'autres villes, des gens qui sont sur d'autres styles esthétiques, pour que les questions qu'on pose, elles puissent toucher à l'ensemble du spectre, et que voilà, si t'es DJ électro, ou si tu fais du ska, ou si t'as un groupe de reprise de NTM dans le Morbihan, tu peux écouter ça et réfléchir. C'est ça que j'ai envie de réussir à montrer. Que les artistes qui se posent des questions, si on a envie, si j'ai envie de te mettre toi à la même table que Roselyne Bachelot ou qui que ce soit en ministre de la Culture, on peut le faire, et c'est une conversation qu'on va mener en tant que personne, soit qui font, soit qui sont passionnés, et qui ont des choses à dire. Et je suis persuadé qu'on avait besoin de cet outil conversationnel. Je ne sais pas encore ce que ça va transformer. J'insiste sur le terme transformer, parce que j'ai envie qu'on transforme. Sur cet épisode SACEM, je pense que je vois comment on va réussir à le faire. Mon objectif, c'est qu'on a fait cet épisode, il y a des gens qui regardent ça, et je ne sais pas, ils se présentent au conseil d'administration de la SACEM.
Ouais.
C'est le seul objectif que j'ai. Peut-être que je vais réussir à faire ça. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être que petit à petit, de plus en plus d'artistes vont s'investir pour que les problématiques qu'ils ont, ils puissent être au siège où il faut être pour y répondre.
Mmh.
Et après, si je suis très utopiste, si on réussit à faire ça dans les domaines culturels, peut-être on va pouvoir le faire encore plus à une échelle sociale. Je pense que c'est le chemin vers lequel il faut qu'on se dirige tous, être le plus impliqué possible pour les choses qui peuvent avoir un impact pour nous et pour ceux qui vont nous succéder. Voilà.
Ah, waouh.
Ouais. Et dire que je ne me suis pas présenté au présidentiel. Hein. Ah là là.
Putain, merde.
C'est important. Non, mais c'est cool parce que ce que tu fais, effectivement, je pense que c'est important pour beaucoup de gens. Donc c'est important. Je n'ai pas d'autres mots.
Non, puis en plus, genre, moi qui suis. Qui gravite dans la musique depuis aussi longtemps que j'ai compris que j'aimais la musique, c'est-à-dire depuis le collège, tu vois. Je faisais de la radio quand j'étais ado et tout, et c'est vrai que c'est des questions... Enfin, j'ai fait des études aussi sur, tu vois, genre, le domaine culturel et tout, et c'est vrai que, tu vois, d'écouter Masters, ça m'a redonné le truc de « Putain, j'ai trop envie de comprendre tout pour les niquer, là. » Ça me saoule.
Ouais.
Mais du coup, trop bien, voilà. Je pense qu'on peut passer au son d'après.
Tout à fait.
Eh bien, Kid, je me dois de clôturer cet épisode avec classe, tel Corneille. Et j'avoue que c'est une petite pression, hein, comme à chaque fois qu'on reçoit des invités ici. On veut bien faire et on voudrait au mieux faire découvrir des morceaux et au pire que ce soit un morceau qui plaît à notre invité, tu vois. Et alors, pour préparer cette émission, du coup, je l'ai déjà dit, j'ai regardé plein de choses où tu apparais, j'ai regardé tes chroniques, où tu discutes de l'industrie musicale, voilà. Et il y a un moment qui m'a marqué dans ton passage, du coup, chez Grunt, donc la NIF. On fait des bisous à Nifa, qui, si jamais elle nous écoute, on ne sait jamais. Et donc, chez Nifa, tu as ramené quelques morceaux, et le premier, c'était un titre de Starpoint, Touch of Your Love, qui est un morceau dans une ambiance simili Whitney Houston, que j'ai personnellement adoré, car les gens qui suivent ce podcast commence à savoir que j'ai une petite passion pour les années 80. Et la chose qui m'a d'autant plus fait plaisir, c'est que t'en parles en disant qu'à ce moment-là, t'étais en train de faire une playlist des chansons qui te rendent le plus heureux. Et du coup, je me suis dit, trop bien des playlists à thème, ça c'est grave ma cam. Et du coup, je me suis dit, chambé, j'ai mon angle pour la chronique avec Schkid, ça va être super, je vais passer une chanson qui me rend heureuse. Et là, malheur, je commence à taffer sur cette chronique et j'ai zéro idée. Mais genre... Vraiment, c'est très bizarre parce que je suis plutôt une meuf de nature joyeuse.
Ah, plutôt, oui,
je vois ça. Voilà. Hein.
J'ai l'impression d'avoir le bonheur un peu facile, tu vois, surtout avec la musique. Et je m'étais dit, ça va être grave simple, je vais trouver un truc en 2 secondes et tout. Et en fait, j'ai cherché 1 heure, 2 heures et ça m'a déprimée en fait d'éplucher mes playlists et tu sais, d'être à la recherche d'un son qui fasse tilt de ouf. Et du coup, je suis passée à autre chose, tu vois, j'ai fait bon, vas-y, ça me saoule. J'ai fini par checker, en fait, mes playlists mood. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Et tous les titres sont en anglais parce que je suis un peu bilingue. Et donc, il y a Melancholy Heartbreak, Sad at the Party, qui est une playlist dont les gens entendent beaucoup parler ici.
On en a parlé pas mal ici.
Et Good Sex Soundtrack. Autant vous dire que je vais pas aller loin sur le chemin du bonheur avec ça. Et en fait, ça m'a fait réaliser que même si j'aime beaucoup la musique de club et le turn-up et tout ce qui me donne envie de danser, c'est pas nécessairement des trucs qui vont me toucher. Et en fait, je cherchais vraiment une musique qui me rendrait heureuse premier degré. Tu vois, si je l'écoute, je vais être heureuse. Et ben, j'ai pas trouvé. Voilà. Tout ça pour en venir à « j'ai pas trouvé ».
S'arrête là.
Voilà, le plot twist. Le plot twist est total, donc j'ai fini par ramener un titre qui, franchement, me fait chialer une fois sur deux. Et je vais éviter, de chialer aujourd'hui. Normalement, ça devrait aller, parce que j'ai déjà pleuré hier en écrivant cette chronique.
Oh non.
La réponse, c'était simplement écrit sur mon t-shirt. C'était Diams. Il fallait que je ramène Diams. J'ai encore jamais parlé de Diams dans ce podcast, et c'est insensé, car quand on me connaît, on sait. On sait que cette petite banlieusarde, c'est ma préférée. Et bah du coup, j'ai justement envie de vous faire écouter Petite banlieusarde et qu'on en parle après.
Petite banlieusarde, j'ai fait du rap pour me libérer du mal. J'aurais pu finir à la maf, le cœur criblé de balles. J'ai pris la plume pour qu'elle m'éloigne de la mort, pour que ma mère n'aille pas à la morgue pleurer sur mon sort, ouais. Je suis dur mais sincère, moi j'étais seul et sans frère. Fallait être sûr, fallait assurer sans père. Petite banlieusarde, je reste fasciné par les armes, fasciné par Manny, Ginger et Sam. Moi c'est mon monde et je ne suis pas un capard. Je m'accapare le droit de rêver de baraque et de bar. Je rêve d'être né quelque part en fait. Merde, je me perds, métissé, je reste cul entre deux chaises. Mais qui suis-je pour qu'on m'applaudisse ou me déteste? Qu'ai-je fait pour qu'on me teste? Qu'ai-je fait pour qu'on me blesse? Seul, je n'ai que le rap et personne peut m'en vouloir d'avoir apprécié la gloire, ne serait-ce que pour un soir. Ex, petite fille invisible, accroupie dans un coin de la cuisine, l'oreille déforée par la rime, je la foulais ma vie de rêve. Loin de la fille de merde de ma mère, pleurant sous les rappels du système. Entre le shit, les guns et les flics, j'ai préféré le titre, le son et les chiffres. Mais bien sûr j'ai fini seul, seul avec ma plume, rêvant d'une vie plus qu'alléchante. Alléchante ta putain de peine et que les gens la ressentent. Car les gens me ressemblent, dans le fond les gens saignent. Je le sais, dans le fond les gens saignent. Y'a du mal-être dans l'air. On m'a prise pour une merde, on m'a jugé sur mon paraître et ma verve. Mais derrière mes fautes de grammaire, y avait de la rage. Messieurs, mesdames, je vous le jure, j'avais des tubes dans mon cartable. J'ai vite compris qu'on me prenait pour une conne, autant mes profs que mes potes. Une petite blanche dans le hip-hop, alors je m'exprime. Mais je reste sur la défensive depuis que j'ai rencontré l'amour avec du sang plein les gencives.
Petite banlieusarde de Diams sur une instru de Scred. Ça va, vous allez bien? Parce que moi, ça me fait toujours quelque chose. Hein.
Bah écoute, moi, pour être tout à fait honnête avec toi, moi je crois que c'est la première fois que j'écoute le morceau.
Ah ouais?
Ouais, parce que j'ai pas du tout une grande culture de Diams, où je l'ai pris. Enfin, j'ai reçu Diams
oui,
que vraiment très tard.
La Boulette, Jeune Demoiselle, DJ.
Ça, et le dernier album. J'avoue que, c'est peut-être aussi au moment où j'ai vraiment plus creusé le rap, et en fait, c'était un peu avant, c'était après, du coup, dans ma bulle.
Ouais.
Mais c'était juste avant que SOS arrive, et du coup, j'avais beaucoup écouté SOS. Et je sais que SOS m'avait mis, même si je sais que c'est vraiment pas l'album le plus apprécié de Diams, moi, il m'avait mis une gifle juste parce que je crois que c'était aussi ma vraie introduction avec
avec ce
qui n'était pas le personnage de Diams, mais qui était au-delà des singles, quoi.
Ouais, je vois.
Et du coup, sa sincérité, etc., enfin, tu vois, tu peux pas rester indemne de ça, quoi.
Ouais. Bah justement, en fait, je me suis dit qu'on allait parler de tous les sentiments. Parce qu'en fait, au-delà de ce morceau, je pense que Diams, c'est une artiste qui, personnellement, me fait passer par le spectre de plein d'émotions différentes. Mmh. Je me suis dit, c'est une question qu'on pose à nos invités à chaque fois, c'est genre, quelle est la musique qui te met dans tes sentiments et dans tes émotions? Et je m'étais pas trop posé la question. Diams, elle fait partie de ces gens-là, en fait. Vraiment... c'est pas une musique, c'est vraiment cet artiste-là précisément, quoi.
Mmh. Qui touche.
Parce que, ouais, c'est ça, elle a un côté si vulnérable et si sincère dans tout ce qu'elle a produit.
Si entière.
Que c'est ça. Et du coup, en fait, je t'entendais dans le podcast Câblé. Je crois que c'est Souvenir Sonore, ça s'appelle.
Ok, ouais. Yes, que j'ai enregistré à Nantes.
Oui,
incroyable.
Tout à fait, avec Armel Tina Tornade, à qui je fais des bisous. Mmh. Voilà.
Pareil.
Et du coup, tu parles de Music Sounds Better With You, de Stardust, en disant que tu sais pas trop comment expliquer pourquoi ce morceau, il te fait autant quelque chose, mais il te fait un vrai truc, etc. Et ben, je crois que ce titre de Diams me fait ça.
Wow.
Impossible à expliquer. Et en vrai, c'est rare que je le réécoute aujourd'hui régulièrement. Tu vois, c'est pas un truc que j'écoute tous les deux jours. Mais je sais que
c'est éprouvant.
C'est un peu éprouvant. Non, mais en plus, c'est pas tant éprouvant. Tu vois, ce morceau, elle raconte sa vie. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'elle raconte du Diams à 100%. C'est toute sa vie. Mais je me souviens que quand j'avais 14-15 ans, quand j'écoute dans ma bulle, à l'époque, moi je pense que je me prends... j'avais dû écouter DJ et je détestais quand j'avais 11 ans. Et à 14 ans, elle sort dans ma bulle et j'écoute La Boulette. Je suis en mode, ouah, trop bien La Boulette. Et du coup, je commence à écouter dans ma bulle. Et ce morceau, cette conclusion, il y avait un truc de « elle s'adresse à moi ». Un peu comme toi avec La Caution, de « elle s'adresse à moi, je sais ce qu'elle dit », alors que j'ai jamais été banlieusarde, j'ai jamais fait des battles de rap, j'ai jamais été animée par ça, tu vois. Mais il y avait un truc où je m'identifiais vachement à elle, et je pense, par cette vulnérabilité qu'elle partage en fait dans ses textes. Et du coup, voilà, je voulais ramener ça, parce que je me disais que c'était cool de parler de ça, des émotions qui sont vraiment liées. Tu vois, tu parlais de souvenirs tout à l'heure avec le morceau de Radiohead, bah je pense que c'est ça en fait, Diams. Tu vois, genre en préparant la chronique, j'ai réécouté d'autres morceaux de Dans ma bulle, parce que je me disais, est-ce que je ramène celui-là ou un autre, et ça me fait ça avec Big Up aussi, Big Up qui est son espèce de morceau sororité formidable, Big Up à toutes mes sœurs, etc. Ouais. Et souvent les gens rient un peu quand je dis ça, mais pour moi, et je l'assume jusqu'au bout, c'est ma première ouverture au féminisme en fait. Mm-hmm. Ce truc de sororité, en 2006, je sais pas, il n'y avait pas grand monde qui le faisait.
Oui.
Et notamment en étant Diam, c'est en étant probablement une des seules meufs en tête d'affiche dans le rap français. Et du coup, alors bon, bien sûr, le féminisme de Diam s'arrête au slut-shaming. mais du coup, avec le recul, il y a plein de trucs qu'on peut lui reprocher et tout. Mais c'est son imperfection, en fait, qui fait qu'elle était si touchante en tant qu'artiste. Et en plus, elle était tellement jeune. Enfin, tu vois, genre, tu réalises après coup, mais quand elle fait Ma souffrance, en 2003, elle a 22 ou 23 ans, je crois.
Alors, est-ce que tu peux me pitcher un peu, parce que moi, du
Ma souffrance, c'est un morceau où elle raconte qu'elle a survécu à une histoire d'amour violente où elle se faisait taper dessus. Okay. Voilà. Mmh. Et donc déjà, moi, en fait, je crois que j'étais déjà fascinée par elle quand j'avais 14-15 ans, et encore plus aujourd'hui, quoi. Il y a un truc vraiment où avec l'âge adulte, vient le truc de « Ouais, mais cette meuf, elle disait des trucs à une époque où personne disait ce qu'elle disait, quoi. » Et petite anecdote, voilà, juste de souvenir, je me souviens me demander à mon prof de musique de l'époque, donc j'étais en troisième, et au lieu de se taper « Je veux du soleil » de « Au petit bonheur », je voulais lui demander si on pouvait pas faire du Diams plutôt, genre parce qu'on apprenait à chanter des chansons, et j'étais vraiment en mode « Vraiment, est-ce qu'on peut pas faire des trucs plus actuels ?» Et m'avait répondu que non, mais que je pouvais faire une presta devant toute la classe d'un morceau de Diams. Alors, je sais plus si j'avais choisi « Petite banlieusarde » ou « Ma France à moi », mais je me revois vraiment devant toute ma classe de troisième avec le livret de l'album en train de faire la presta, tu vois, pendant 5 minutes de Diams devant mes...
Et respect, parce que ouais, en plus le morceau, il est long, là. Faut le
mais je sais pas si celui-là, mais tu sais, j'avais le livret donc il y avait toutes les paroles.
Ouais, mais faut se rappeler du delivery un peu.
Bah, je sais, enfin, après.
Pour assumer ça face à ta classe à cet âge-là.
C'est surtout ça.
Pour rappeler des choses comme ça, et franchement, si tu.
Je me suis souvenu, déjà, je me suis souvenu ça hier et j'étais vraiment en mode. C'est vrai que j'ai fait ça. mais pourquoi ? Quelle était la logique ? Bref, en vrai, je pense que je pourrais parler de Diams pendant 3 heures. Juste, c'est un album qui est plein de choses à la fois pour moi. C'est beaucoup de souvenirs et. Aujourd'hui encore des sentiments très forts pour cette personne, et malgré le fait qu'on souhaite tous qu'elle revienne, en fait je crois que c'est très bien qu'elle ait arrêté sa carrière et qu'elle ait mis un stop au moment où c'était important pour elle, et ça revient aussi à ce dont tu parlais avec Kura, qui est un truc de, en fait la santé mentale c'est très important, et en fait si c'est pas bon pour toi de continuer à créer, peut-être c'est bien d'arrêter. Et je voudrais revenir aussi à... On parlait de musique généreuse tout à l'heure avec Rosalia. Et en fait, je me souviens, quand on a parlé pendant l'écoute de Rosalia, j'étais là, je comprends pas ce qu'il dit. J'étais là en mode, comment ça, musique généreuse? Je vois pas de quoi tu parles.
Oh, et... non. Ah, t'es rentrée chez toi, tu t'es dit, mais c'est qui, lui, là?
Non, pas du tout.
Tu se prends pour qui, là?
Pas du tout. Pas du tout, mais je m'étais juste dit, genre, musique généreuse, qu'est-ce que c'est? Et en fait, bah là, je crois que je sais, en fait. C'est quand je pense à Diams, je comprends le terme généreux en parlant de musique, quoi. Et voilà, c'était ma diatribe sur Diams.
Bonne illustration du terme musique généreuse.
Ouais, ça marche.
Ça, c'est sûr. Bah, en tout cas, même par rapport à. Parce que je pense que même la manière dont tu l'avais verbalisé, je l'avais pas forcément interprété comme ça. Mais j'ai l'impression que ça rejoint vachement, du coup, que tu nous as partagé tout à l'heure, là.
Ouais.
Donc voilà, je voulais parler un peu de ça, parce que je trouve que, en plus, dans cet album, dans ma bulle, donc moi qui ai l'album. Fondateur de mon amour pour Diams, voilà, et je trouve qu'elle passe par plein de phases et plein d'émotions, et qu'elle a cette capacité en fait à te mettre en colère, enfin tu vois, genre elle a des morceaux, elle est vraiment vénère, elle a des morceaux comme ça, hyper introspectifs, où t'es en mode, ouais, je vais remettre en perspective toute ma vie, et d'autres comme Big Up ou comme Jeune Demoiselle, tu vois, qui sont des trucs un peu plus légers, enfin même si Big Up c'est pas si léger que ça en soi, parce que je trouve que c'était un morceau important de l'époque, et elle a aussi ce côté fédérateur, hyper fédérateur, que je vois encore aujourd'hui, puisque du coup, moi, je mixe dans des soirées années 2000, donc forcément, La Boulette est un classique. Et DJ. Et en fait, à chaque fois, il y a un truc. Et pour le coup, tu vois, genre, quand je parlais de bonheur et tout, ça, je sais que c'est un moment de bonheur à chaque fois d'avoir La Boulette. Moi, j'ai en plus un drapeau Diams que je sors à chaque fois. Donc, je sors mon drapeau Diams devant les gens, comme ça. Tous les gens sont contents, on est contents, on chante La Boulette et tout. Et donc, ça, c'est un vrai... souvenir de bonheur, et je pense que dans 15-20 ans, je serai en mode, ouais, tu te souviens quand j'étais à la machine du Moulin Rouge et que je mettais mon drapeau d'âme, c'était super, voilà.
Moi, j'ai un beau souvenir de bonheur de DJing lié à Diams. J'ai un souvenir de soirée où j'avais joué un mash-up que tu connais peut-être, j'imagine. Il y a un mash-up de I Follow Rivers de Licky Lee, le remix, et DJ de Diams.
Ok, je l'ai jamais entendu, non.
C'est incroyable. Ah, okay. C'est incroyable. Donc il y a I Follow Rivers qui commence avec le petit piano, le rythme que tout le monde connaît. Et donc il y a l'instru et par-dessus, il y a la cappella du Diams et ça sort de nulle part. Et vraiment, le mash-up est d'une perfection.
Le moment où les gens captent.
Et le moment où les gens captent, j'ai 4-5 souvenirs comme ça de DJ où je sais que... Enfin, tu vois, quand tu joues, il y a un moment où tu as envie de produire un effet et tu sais que tu as réussi. Tu vois la réaction des gens. Les mashups, c'est des bons exemples parce que bon, bah, tu peux voir que les gens, ils croyaient que c'était ça, mais en fait... Et celui-là, j'ai le souvenir, la première fois que je l'ai joué, j'ai vu sur le visage du public que... En plus, je faisais pas un set pop, tu vois, donc il n'y avait aucun sens à jouer Licky Lee à ce moment-là. Donc je fais mon set, juste les gens sont là genre... Ah. Et là, il y a Diams, et là, tout le monde connaît tellement le morceau que tout le monde explose. Effectivement, chez Diams, il y a tellement d'exemples de choses qui sont restées générationnelles.
Ouais.
Des textes, des phases, que c'est une sensation de plaisir qui est vraiment très particulière sur les artistes de cette époque-là. Je sais pas, je pense que t'as pas le même plaisir, par exemple, en DJ, tu peux pas jouer un morceau de... Tu sais mieux que moi, donc peut-être tu vas me dire le contraire. Tu peux pas jouer un morceau de This Is, presque même pas de Booba, tu vois, avec la même...
Ouais, c'est sûr.
Le même esprit de
fédérateur,
d'union. Ouais.
Ce que je trouve intéressant avec ce morceau-là, c'est qu'en effet, c'est de la pop. Enfin, tu vois, genre, tu vas pas dire c'est un morceau de rap ultra carré de Diams, mais je pense que c'est ça la force de Diams, en fait. C'est qu'elle est emmenée des gens dans son univers, en ramenant des morceaux comme ça. Enfin, genre, je suis désolée, jeune demoiselle, j'adore ce morceau parce que, tu vois, c'est pas ouf en soi. Si je me dis, genre, de tous les morceaux de Diams, quel est mon préféré, c'est pas jeune demoiselle je vais choisir, tu vois. Mais... Il a ce côté marrant, toute la liste de tous les trucs. Si t'as les refs en plus, c'est incroyable d'avoir tous les trucs à défiler, tu vois. Et j'ai perdu ma pensée, mais tout ça pour dire, qu'est-ce que je disais, je sais plus.
Bah,
j'ai
perdu. Il est ouvert. Enfin, en tout cas, ça fait partie des morceaux plus ouverts. Voilà. Mais je trouve, tu vois, la boulette, on n'est pas moins un morceau. Enfin, ça reste un morceau de rap, en fait.
Oui, ça reste un morceau de rap, mais je pense que c'est pas un morceau de rap apprécié par les puritains du rap, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Alors que, je sais pas, elle peut avoir d'autres morceaux où elle fait un peu ce jeu-là d'être un peu pop et tout, mais qui est quand même carré. Genre moi, un de mes morceaux préférés de Diam, c'est Suzy 2003, où elle se clash elle-même sur... c'est une prod de Vincil. Et vraiment, celui-là, j'adore ce morceau. Et il a ce côté marrant et tout, mais il a ce côté où, en fait, elle est en train de rapper, quoi. Et en plus, elle fait la démo où elle se clash elle-même, donc elle fait la petite meuf, machin, et après, elle est en mode, en fait, tu vas voir qui c'est qui kick. Et ils accélèrent la prod, et elle kick de ouf, et bon, j'adore ce morceau. J'adore Diams. Est-ce que vous aviez remarqué? mais du coup, bon, bref, tout ça pour dire, en fait, je voulais juste... Oui, vas-y.
Musique généreuse.
Musique généreuse.
C'est très important, ce concept. Parce que les œuvres que les gens créent, tu sais pas le temps que ça peut durer. Vraiment, je suis très obsédé par cette notion. Je sais que quand je crée ou quand je suis avec des gens qui créent, je suis toujours obsédé par cette idée que, comme tu sais jamais jusqu'où ça va, quand tu fais une chanson, là, tu marques potentiellement quelqu'un pendant, je sais pas, 90 ans, tu vois, toute la durée de nos existences. Et c'est en ça que j'aime bien quand les artistes sont généreux, parce que tu passes pas juste un bon moment qui dure 3 minutes. Tu passes potentiellement un bon moment qui, toutes les minutes cumulées, dure 25 heures, en fait, dans ton existence. Donc, il faut être très précautionneux sur à quel point on n'est pas seulement dans quelque chose qui va correspondre à une modernité, quelque chose qu'on va avoir envie d'écouter juste une fois.
Ouais.
Les chansons, vraiment, plus que n'importe quelle forme d'art. Il y a des films que tu peux aimer et tu peux les regarder un certain nombre de fois, mais jamais
ça
autant,
sera jamais
qu'une
autant
chanson
qu'une
que tu
nuit,
vas écouter.
C'est ça.
En boucle.
Et du coup, je voulais en venir au fait de savoir si, justement, il y a des artistes, toi, qui te font passer comme ça par tous ces spectres d'émotions et qui te mettent dans tes sentiments. Puisque c'est notre question phare de ce podcast.
Ouais. Bah alors là, attends, spontanément, j'ai deux réponses, mais horriblement clichés. Horriblement clichés pour...
Puis-je être plus cliché que Diams?
Non, mais je peux pas répondre...
tu vas dire
Blood Orange et Franco-Océan, tu vois. Ce serait.
Bah, en vrai.
Mais en vrai, un peu.
Clément,
oui,
bah,
ça, je me doute bien que.
Non, non, mais en parler, plus, c'est marrant, quoi. Enfin, quand même. Ça, juste, ça marque, quoi. Et qu'il touche, ouais. Je pense, en tout. Je maîtrise moins bien, par exemple, le travail de Blood Orange, tu vois. Mais ouais. Franco-Océan, il a touché quelque chose dans la musique qui est. Comme mon avis, peu d'artistes le font. En tout cas, tu vois, en tout cas, décennie après décennie. Si, ouais.
Mais dans la musique mesure. Ou dans ton cœur, Clément ?
Franchement, c'est dans mon cœur, évidemment, mais j'ai l'impression, vu l'impact en fait, qu'il a, tu vois, auprès de tous les auditeurs et même les musiciens et tout, je pense que c'est plus gros que ma soeur, tu vois, que ma petite obsession, quoi. Enfin, en plus, obsession, je dis ça... pas vraiment, tu vois, obsession, je dirais plus un Kanye West, moi, m'a vraiment matrixé la tête.
Ah ouais, Kanye West, mais... j'ai même pas pensé à lui. Je pense que c'est trop difficile comme question, vraiment.
Ouais.
Il y a tellement de phases aussi, je sais pas, j'étais obsédé par Björk à un moment donné, j'aurais pu te répondre ça à une certaine époque, je sais pas, PNL. Il y a une chose vers laquelle je reviens toujours, qui est peut-être également extrêmement cliché, mais c'est les... Eric Satie et ouais, quand même beaucoup de trucs de classiques, mais je reviens toujours vers ça. Okay. Je pouvais écouter 15 000 trucs qui vont vraiment me toucher, me prendre au cœur. Alors, je pense que le vrai fond de sensibilité que j'ai, maximal, c'est la musique classique.
C'est ta base, quoi.
Tout à fait. Et les gymnopédies, vraiment, il y a toujours un moment dans l'année où je ne peux qu'écouter ça et pleurer dans la rue. C'est tous les ans, ça marche. Vraiment à chaque fois. Ça, j'ai également une playlist que j'ai appelée Beauté, je crois. J'ai mis toutes les œuvres de classiques que vraiment j'écoute avec un sentiment d'immensité qui me rappelle la beauté de l'expérience humaine. Du Schubert, ou même des choses plus récentes. Un compositeur italien que j'adore qui s'appelle Ezio Bosso. Un pianiste, il y a aussi Ludovico Einaudi, pour les contemporains. Ça, c'est pas des styles de musique sur lesquels je vais faire profondément du digging, mais je sais que j'ai des phases où j'ai besoin de ressentir quelque chose d'extrême, et je crois que ce que je ressens le plus extrêmement, c'est ça.
Et comment t'as fait ton éducation autour de la musique classique ? C'est venu comme ça, un peu au hasard ou...
Non, bah, je suis sûr qu'il y a un truc inconscient que j'ai pas été débloqué encore, mais... Quand j'étais petit, j'ai fait du solfège et du piano, donc je jouais, je sais pas, j'ai joué du Chopin.
Okay.
Sinon, le cinéma, beaucoup. Hein. Je sais pas, j'ai découvert les bandes originales des films de Stanley Kubrick, la musique de série qui est inspirée de... J'ai fait une obsession à un moment pour un compositeur classique. Je crois que c'est Gustav Holst, qui est un compositeur du début du XXe siècle. Qui avait fait une série d'œuvres à un moment qui s'appelait Les Planètes, donc toutes les planètes, en tout cas à l'époque, celles qu'il connaissait en 1919, quoi, donc il n'y a pas Pluton. Et c'est de la musique orchestrale très, très puissante, très ambitieuse, très wagnérienne. Et les thèmes de musique, principalement le thème de Jupiter, c'est le thème qu'a inspiré la musique de John Williams quand il a fait Star Wars.
Okay.
Donc c'est vraiment John Williams, il a copié. Mais c'est positif, il a copié, il a pris les meilleurs éléments de Gustav Holst et il a fait les thèmes de Star Wars que tout le monde connaît et qui défoncent tout. Enfin, j'ai une autre référence de classique vers laquelle je vais à chaque fois et le nom du compositeur m'échappe totalement. Et en plus, c'est une référence honteuse parce que, pour répondre à la question de l'éducation, c'est un compositeur que j'avais découvert en lisant une interview en 2017 sur un site genre musiqueclassique.fr de Emmanuel Macron. Qui est, qui n'est pas spécialement un grand connaisseur de musique contemporaine. Du coup, il aime bien la musique classique. Et je sais pas, il y avait une interview sur ce site, genre « Monsieur Emmanuel Macron, quelles sont vos compositions et vos compositeurs préférés ?» Et là, il raconte sa vie. Oh, moi, j'aime bien.
Okay.
Et il y avait, un compositeur. Ça ne me revient pas, donc je reviendrai avec la référence...
On va retrouver cette interview.
Non, mais c'est possible que ce soit juste Schubert. Il y a une composition du coup de ce compositeur-là qui a un truc orchestral de 15 minutes qui est, je pense, le truc le plus épique que j'ai entendu dans ma vie. Vraiment, c'est trop bien. Je suis sûr que c'est un compositeur allemand. C'est que les Allemands qui font des trucs comme ça, grandiloquents.
C'est ça.
Et bref, je La vie est faite de haut et de bas. Parfois, j'ai des crises de confiance parce que j'ai l'impression d'être super nul. Et je sais que sur tous les moments où je remonte la pente, je sais pas pourquoi je réécoute ce truc en me disant « je vais tout baiser. »
Je suis regonflé à bloc, ouais. C'est ton ego trip à toi, quoi.
C'est ça. Et du coup, c'est horrible parce que je l'ai associé beaucoup à Emmanuel Macron.
Je vais devenir président de la République.
Non, mais des fois, je repense à quand il a été élu en 2017... Il a fait sa petite marche là, il est au Louvre là, ouais. Et à la fois je trouvais ça hyper grotesque, et en même temps je suis grave fasciné par ça, et du coup je l'imagine sur cette musique, et du coup moi je m'associe à ça, tu vois, je m'imagine faire je ne sais pas quoi, avoir l'énergie d'Emmanuel Macron pile ce jour-là. j'aimerais bien avoir une autre émotion que celle-ci, mais malheureusement à cause de cette sale interview.
Qui t'a fait découvrir ce morceau?
Ouais, les préludes de... Franz Liszt, bien sûr. Les préludes, okay. Les préludes symphoniques, poème numéro, c'est le combien? C'est le 3? Ouais. Oh là là, la Franz Liszt, incroyable.
Incroyable.
C'est un Allemand ou un Autrichien, je ne sais même plus.
Écoute, tu sais quoi, je suis même pas sûr de connaître, donc.
Moi, je connais le nom parce que j'avais une grand-mère fan de musique classique.
D'accord.
C'est le digging sur les musiques contemporaines. Je suis un peu rassuré parce que je sais que je peux toujours creuser. La musique classique, c'est un talon d'Achille. Tous les ans, je me dis, vas-y, c'est bon, là, il faut que je reprenne des cours de solfège. Il faut que. Surtout travaillant principalement dans le rap, j'ai souvent des conversations sur la musique avec des gens qui sont dans d'autres classes sociales que moi, des gens qui me regardent, moins maintenant parce que c'est plus démocratisé, mais pendant longtemps je parlais avec des gens qui me prenaient pour un débile parce que j'écoutais du rap. Et je me suis toujours dit, dans la même énergie que ce que je vous disais tout à l'heure, si j'ai besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un, par exemple voilà, sur Franz Liszt, je vais le plier, je connais de A à Z. En vrai, sur la musique classique, je suis pas un immense spécialiste. Je peux confondre les périodes de Monteverdi et de Vivaldi, par exemple. Bon, ça c'est encore une fois pour des conversations que je n'ai que dans ma tête. Hein. Personne ne me pose la question. Mais comme j'essaie d'avoir des amis diverses et variées, je me suis déjà retrouvé. J'ai passé un moment génial chez un garçon qui s'appelle Jean Rondeau, qui est un claveciniste français. Je crois qu'il y a des compétitions, donc c'est le champion de France du clavecin.
Okay.
Il fait des albums de reprises de Monteverdi absolument. C'est une star. Il a gagné 15 000 victoires de la musique classique. C'est un mec de ma génération. Et j'étais une sorte de représentation dans sa maison avec toutes les personnes qui ont des victoires de la musique classique, qui faisaient une interprétation dans le salon là, de Monteverdi avec 4 violons. Un violoncelle, wow. des chanteuses mais monstrueuses, alto, soprano, tout ouais. Ça. Et voilà, j'ai un souvenir de complexe à ce moment-là, parce que j'étais devant ces gens et je comprenais absolument rien. Et à un moment, un gars est venu me parler, il m'a dit « Ah, toi, tu fais quoi ?» Après, « Oui, je travaille dans le rap et tout. » Et là, j'ai senti que je faisais pitié un peu, parce que je pouvais pas tenir la conversation.
Oui, mais il aurait pas pu tenir la conversation à l'inverse sur le rap, j'imagine.
Mais oui, mais on était en 2016, tu vois, on aurait eu une conversation sur Damso, ça n'a aucun intérêt. Non.
Et PNL avait beau commençait vraiment à être très respecté,
ouais,
mais quand même.
Ouais, non, c'était pas la bonne période, en plus, c'est pas le meilleur album hein, dans la légende.
C'est vrai. Non.
Mais voilà, bon, du coup, je constate que j'ai pas fait mes recherches sur Monteverdi malgré ce moment, donc je vais, passer les deux prochaines semaines.
Voilà, tu repars avec des devoirs, quoi.
Voilà. Me mettre à la page sur la musique classique.
Très bien.
Il y a de quoi faire.
On est bon ?
Je crois qu'on est pas mal déjà.
Ça va, j'ai vraiment beaucoup parlé. Est-ce que ça va ?
Je suis désolé. C'est bien. On adore.
Vous êtes plusieurs à dire ça à la fin des podcasts, mais en vrai, c'est le but. Passionnant.
Ouais, exactement.
Eh bien, c'est très gentil. Je vous remercie vraiment de m'avoir permis de m'exprimer.
Avec plaisir.
Et nous, on a été ravis de te recevoir. Avant quand même de se quitter, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce que tu as envie que les gens viennent te retrouver ?
Les résultats de notre enquête Cura, je pense au moment où l'épisode sortira, ouais. Je crois que ce sera en ligne, parce qu'on les présente au printemps de Bourges.
Okay.
Je crois que je sais plus si c'est la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais il y aura également l'épisode de Masters, donc, dont je crois le titre est pour l'instant les écolos vont-ils nous empêcher d'aller en festival ?
Ah, excellent.
C'est ça le titre, avec Fakir et Mathilde Voy. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais, il y a le premier single du coup du projet Diba qui sort.
Trop bien. Quand ça ?
Je sais pas. Sans doute que quelqu'un est en train de me le dire sur mon téléphone là.
D'accord.
Mais je pense fin avril.
Ok, parfait.
Je crois qu'ils sont en train de faire le clip là.
Très bien.
Pour anticiper le projet courant mai.
Trop bien. Excellent. Ça fait déjà un bon programme finalement.
Exactement.
C'est pas mal.
Ouais.
Nous, avant aussi de se quitter, on fait comme d'habitude les petites...
Recommandation d'usure.
Tu veux que je le fasse?
Oui.
Ok, très bien. Eh bien, c'est simple. À la fin de ce podcast, vous êtes probablement plein à vous poser des questions sur comment est-ce qu'on écrit plein de noms d'artistes ou de trucs donc, qu'on a dit, voilà. C'est dans les notes du podcast, il y aura un petit lien vers un Google Doc parce qu'on a parlé de 1000 choses et qu'il n'y aura pas la place dans la barre d'infos de notre hébergeur. Mais donc, du coup, il y a les notes du podcast. Les 4 morceaux que vous avez écoutés se retrouvent dans la playlist du son d'après qui est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Et eh bien, si vous avez le temps, vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, un petit commentaire, parler de ce podcast autour de vous, car ça aide au référencement et à juste faire plaisir à d'autres gens que voilà, de partager ce podcast, ça fait toujours du bien, finalement.
Exactement, et puis c'est souvent comme ça que l'info, que ça se partage le mieux, en fait, tout simplement.
Tout à fait.
Schkid, avant de vraiment se quitter pour, pour de bon...
On n'a jamais fini ce podcast.
On a une dernière question pour toi. C'est quoi le son d'après
cet enregistrement?
Il y a une super chanson de John Lennon,
ouais,
qui s'appelle Beautiful Boy.
Okay. Ok. Et bah parfait, ça sera le morceau qui va conclure cet épisode.
Tout à fait. Et si la personne avec qui je vis écoute ce podcast, je suis sûr que ça lui fera très plaisir que j'ai dit ça.
Et bah c'est parfait, on aime bien les déclarations comme
j'adore.
Ça.
J'adore.
Et ben bah, Schkid, encore une fois, merci beaucoup.
Oui.
Merci à vous vraiment.
C'était trop chouette.
Et puis Louise, qu'est-ce qu'on se dit?
À la semaine prochaine.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.